lights out. I don't know where he's going for one more time. It's ready to a great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ready to head into Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside. Sebastian Vettel has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Nasser and gets it right for the rest of challenging Sebastian Vettel. Now as we find out more, get on the rest of the puffer towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie. C'est parti pour 8 mois de championnat, hein, 8 mois, on va vous accompagner pendant 8 mois, vous êtes content?
Déjà que ça commence à être long, déjà après un seul Grand Prix c'est déjà long.
Faut être content, ça s'est super bien passé ce week-end.
Ouais, ça va être long. Il y avait une voiture en trop pour moi sur la piste. Je ne dirai rien, mais il y avait un glaçon dedans.
C'est bon, 2 et 4,
Oui, oui, mais c'est pas 1 et 4.
Surtout le 4, c'est bien ça aussi.
Ouais, on s'en fout ça.
Pas pour le championnat constructeur quand même. Hein.
Ouais, mais on s'en fout ça.
Donc Dino, nous ne sommes pas seuls.
Non, c'est vrai, tiens, je m'étais pas fait la remarque, mais effectivement, nous ne sommes pas seuls. Puisque ce soir, nous commençons la saison avec un invité que nous avons déjà reçu l'an dernier, je ne sais plus à quel Grand Prix. C'était un Grand Prix de 2012, il me semble.
De Hongrie.
Le Grand Prix. Ah, bah,
en plus
ça ne peut donc être qu'un bon invité, puisque c'est Adelin. Bonsoir, Adelin.
Bonsoir tout le monde.
Alors ça va, Adelin, tu as pu voir le Grand Prix?
Oui, oui, puisque sur l'RTBF, il passe encore en clair, donc pour ça, il n'y a pas de souci.
Ah, c'est vrai, il est belge.
Oui, oui. Et alors ça je crois que ça va être la nouvelle première question cette année, c'est est-ce que vous avez vu le Grand Prix et comment vous avez vu le Grand Prix. Et sinon, comme d'habitude, on commence par la vraie première question traditionnelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Ouais, personnellement, j'ai adoré ce Grand Prix. Franchement, c'est une très belle entrée en matière pour la saison 2013. Il s'annonce même mieux, je crois, que la saison 2012. Donc, à voir. Et c'était un très chouette Grand Prix.
Ben, beaucoup de réponses, des confirmations, des surprises.
Des déceptions aussi, hein.
Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de réponses.
J'ai envie de dire, dans les surprises, il y a les déceptions. Des réponses, oui, c'est tôt encore, hein. Faut toujours être prudent avec les résultats en Australie, hein.
On a connu un week-end quand même très, très atypique avec, les conditions de piste, enfin voilà, on a vraiment jamais, on n'est pas sûr vraiment des conditions encore. Donc c'est vrai qu'on a eu des éléments de réponse, on voit un peu se dessiner les forces en présence, et notamment celles qui ne sont pas présentes, n'est-ce pas, McLaren? Je ne dirai rien parce qu'ils sont dans la position de Ferrari l'an dernier. Donc voilà, mais après je pense que pour vraiment affiner sur les quatre équipes de devant, il faudra voir sur plusieurs courses.
Et... Oui, bien sûr.
Bah, à mon avis, ce qu'on peut en déduire, c'est la performance des écuries, une à une. Mais on ne sait pas encore déduire de vraies hiérarchies. Ça, c'est pas possible après le premier Grand Prix. Mais la performance des équipes individuellement, ça, on voit quand même bien.
Ouais, on voit ceux qui sont rapides, ceux qui le sont moins. Après, c'est vrai que la hiérarchie exact.
Bah ceux qui sont rapides, il y a Red Bull. Puis ceux qui sont pas rapides, il y a le reste.
Oui. Oh, t'exagères.
Ça dépend quand. Certains sont plus ou moins rapides, ça dépend quand. Et bon, sans avancer, visiblement, la Malaisie, ça va pas forcément apporter beaucoup plus de réponses.
Mais non, parce qu'ils ont prévu de la pluie vendredi, samedi, et comme on connaît la prévision météo, il y aura sans doute pluie tous les trois jours.
Oui. Non, il y aura pas pluie. Il y aura pluie le vendredi, pluie le samedi, et apocalypse le dimanche. Et donc, messieurs, ce dimanche...
Oh, je crains le pire.
Nous étions le 17 mars. Et qu'est-ce qui s'est passé un 17 mars? Oui, cette année, il y en aura encore des éphémérides.
Ah, merde.
Il n'y a pas une toute petite variante, non?
Oh non, j'ai déjà fait varier pas cette année.
Oh, ouais, mais...
Sincèrement, croyez-moi, Shinji a pensé une variante et il vaut mieux qu'il l'aille pas faite. Vous avez eu très chaud.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc, messieurs, rappelons pour ceux qui découvriraient l'éphéméride inutile de Shinji. On part d'un chiffre pour arriver à quelque chose, un événement, un fait, une personne qui a un rapport avec la date du Grand Prix. Mais ça n'a jamais de rapport avec le Grand Prix, ni avec la F1.
Même pas un tout petit.
Eh bien, écoute... Cette semaine, on peut dire qu'il y a un rapport
capillotracté, c'est ça ?
Ah, voilà. Oui, on reste sur nos basiques de l'an dernier, les liens capillotractés.
Le SAV de la F1, l'émission qui rend chauve.
Bah, suffit de voir Elder. Le chiffre de la semaine est le chiffre 50.
Bon, 50 tours ronds, comme ça.
C'est le nombre de pâtes qu'il y avait dans le plat de pâtes qu'a mangé Kimi Räikkönen après les qualifications.
Peut-être, c'était pas plutôt des patates.
Patates, on a eu les deux versions.
Parce d'abord, que 50 c'était des patates, c'est beaucoup quand même.
Ça expliquerait son poids.
Oui. Mais c'est pas grave, tant qu'il gagne, j'en ai rien à foutre.
Bon, est-ce qu'il y a une unité derrière ?
Oui.
Unité de longueur ?
Oui.
Alors, des kilomètres ?
Non.
Ou des mètres ?
Oh, non.
Des centimètres ?
Oui.
50 centimètres. C'est un objet qui mesure 50 centimètres ?
Celui dont on parle, oui, mesure 50 cm.
Mais il en existe des déclinaisons qui mesurent des tailles différentes.
Oui.
Des plus grands ou des plus petits, toutes sortes ?
Je vais dire plus petits.
Parce que 50 cm, c'est un record.
C'est pas un record. Enfin, on peut dire que de certaine façon, c'est un record, mais il est possible qu'il y en ait eu des plus grands, mais de façon générale, c'est plus grand, quoi. Petit.
C'est un objet récent ?
Peux-tu me définir récent ?
Je sais pas, des 10 dernières années ?
Oh non.
Du siècle dernier ?
Non.
Du 19e siècle ?
Non.
Du 18e siècle?
Oui.
Attends, c'est un objet du 18e siècle.
Qui a été inventé au 18e ou qui était plus souvent utilisé au 18e?
Alors, qui a été inventé au 18e.
Mais dont on se sert toujours aujourd'hui.
Ah oui. Je peux même dire que sans doute vous en avez près de vous.
Et les 50 cm, c'est longueur, hauteur?
Hauteur.
Je suis en train de regarder toute la pièce en disant, rien, ça
parle pas. Sac, en haut 18. Que je me trompe pas de siècle. Au 18e siècle, ça faisait 50 cm.
Donc maintenant, c'est plus petit.
C'est plus petit, oui.
Ah, d'accord.
J'ai envie de dire, fort heureusement.
Les suppositoires. T'inquiète pas, mon chéri, n'aie pas peur, ça va juste durer 2 heures.
T'as des suppositoires toujours autour de toi, toi.
Toujours. Moi, s'il n'y a pas de suppositoire à la maison, je me sens pas bien. 50 cm.
C'est dans le domaine technologique ?
Oui, on peut le dire.
C'est une calculatrice. La non. Première, le boulier, non.
Non, c'est plus vieux.
Le Eric Boulier. C'est Eric
non,
Boulier.
Non, c'est plus jeune.
Eric Boulier, tu peux faire des opérations qu'avec deux boules.
C'est moche cette blague, tu sais. C'est moche. Là, on commence la saison, on est tranquille, on est heureux, et là, pouf, tu sors.
Il est parti. Il va plus s'en remettre, là.
Qu'est-ce qui va se passer cette saison si tu pars déjà comme ça, quoi?
Je m'excuse.
C'est bon, on peut continuer?
C'est un objet fabriqué par... Bah oui, nécessairement fabriqué par l'homme.
Oui.
C'est un objet européen?
Oui.
Français?
Non.
Plutôt latin?
Plutôt latin.
Donc italien?
Italien.
Donc un objet italien qui mesurait 50 cm qui est plus petit aujourd'hui.
Les pizzas.
Je crois que c'est plus vieux.
Ah oui, zut.
Et puis vous avez pas tout le temps des pizzas autour de vous ?
Tout le temps.
Ah oui, non,
tout
c'est vrai.
Temps, tout le temps. Tout le temps. Moi, d'ailleurs, j'en ai une à côté de moi.
Des pizzas au suppositoire, c'est ça ?
Tout à fait. Ah, c'est très bon.
Je ne sais pas, jamais goûté. Hein.
Ce petit goût d'eucalyptus. Oh, putain, je m'en fasse. Attends, donc 50 cm. Les Italiens.
50 cm de haut, attention.
Ah, j'ai oublié ça, 50 cm de haut. Ça se pose par terre ?
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une énergie qui circule dedans ?
Oui.
Une lampe ?
Non.
C'est un peu grand quand même. Hein.
Un radiateur ?
Non.
Là, je sèche, là.
Ça se trouve donc à la maison ?
Oui.
Ça peut se mettre dans n'importe quelle pièce ?
Oui.
Ou est-ce qu'il y a une pièce préférentielle pour le mettre ?
Ah, pas du tout.
Non, d'accord.
Mais cet objet, par rapport au 17 mars, c'est quelque chose qui a été inventé ou ce jour-là, ou bien ça a eu une importance, enfin
inventé, oui, ce jour-là. Je peux même vous dire, en fait, c'est 1800. C'est pour ça que j'ai un peu hésité sur les siècles. Parce
tu sais pas faire plus en la fin que du 17e siècle, hein.
Voilà. C'est... 17 mars 1800.
Invention d'un objet.
Est-ce que c'est un objet culturel?
Non.
Un objet d'hygiène?
Non.
Un objet de cuisine ?
Non.
T'avais dit qu'on pouvait mettre dans toutes les pièces de chez nous, c'est ça ?
Ah, oui, normalement, oui.
Le porte-manteau ?
Non.
L'enfant ?
Je crois que l'enfant est un peu plus vieux que le 17 mars 1800.
Le téléphone ?
Non.
Pour tout et n'importe quoi. La télévision ?
Non.
La boîte à sucre ?
Non.
L'horloge ?
Non.
Le
mais maintenant,
numéro 12.
Cet objet est toujours d'office plus petit que 50 cm. Ou pas forcément.
Oui. Enfin, en tout cas, couramment, oui. Je ne connais pas d'exemple où c'est, ça fait 50 cm aujourd'hui.
Et est-ce que c'est dû à la miniaturisation des
oui,
technologies,
voilà,
je veux
c'est,
dire.
Voilà, tout à fait. L'évolution des technologies.
Est-ce que c'est un objet contendant?
Oui, mais comme plein de trucs, sont des objets contendants.
Est-ce que je pourrais tuer le colonel Moutard dans la cuisine avec?
En l'utilisant sa puissance contendante?
Oui.
Non, je pense pas.
Ok. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a l'énergie qui circule dedans, donc ça doit être un truc électrique.
Oui.
Et qui existait en 1800. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il y a une convergence, il y a une conversion...
Mais c'est pas forcément de l'électricité, si?
Si.
Ah.
Mais à l'époque, c'était pas l'électricité.
Oui.
Bah si.
En 1800, c'était l'électricité. C'est super rare, alors.
Oui. Ah, j'ai pas dit que c'était courant en 1800.
Ah ouais, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus...
C'est courant aujourd'hui, mais...
Ça sert à s'éclairer?
Ça peut... C'est un élément qui est essentiel pour s'éclairer.
Ah, c'est une ampoule?
C'est pas une ampoule.
Mais est-ce qu'il y a une autre fonction? C'est la fonction première de s'éclairer.
Ah non, non, c'est... En utilisant cet objet, on peut s'éclairer. Mais pas tout seul, je précise. Pas tout seul.
Alors, si vous voulez parler de Formule 1, vous attendez le mag dans 2 semaines. Hein, voilà, c'est pas, voilà, c'est mieux.
Hey, enfin, c'est mieux. Quand vous allez savoir ce que c'est, vous allez juste avoir la mâchoire qui se décolle, quoi.
Attends.
Ouais, mais toi, tu le sais, donc c'est toujours facile, hein.
Oui, je sais.
Attends, donc c'est une pièce de quelque chose qui sert à s'éclairer.
Entre autres.
Je vais le tuer.
Mais après, quand on connaît la réponse, toutes mes réponses sont d'une... Enfin, c'est complètement logique ce que je réponds. Hein.
Ah ouais, putain, ça fait 50 cm de haut.
Ça faisait
ouais,
50
ouais.
cm de haut.
Il insiste sur ça, ça doit être important.
Non, mais c'est juste pour vous dire, cherchez pas un objet de 50 cm de haut chez vous, quoi.
Et mais maintenant, c'est plus ou moins la hauteur, combien?
Alors, c'est très variable. On va dire qu'au maximum de sa taille... Ça fait 5-6 cm. J'ai ça à la louche. Hein.
Ah ouais.
Et quelle est sa couleur? Ça peut être toutes les couleurs?
Ça peut être de toutes les couleurs.
Put.
Le schmilblick est-il vert?
Il peut être vert, ça dépend de la marque.
Il y a des marques différentes. C'est une pile?
Oui, c'est une pile!
Oh là là là.
La vache. Excuse-moi, là, c'était le truc du désespoir.
Là, vous la sentez, la mâchoire qui se décolle chez vous.
La vache.
Attends, mais 50 cm, c'est énorme.
Ah ben...
Et encore, tu l'allumais, tout de suite, elle se déchargeait.
Et oui, puisque le 17 mars 1800, donc...
Volta.
Vous savez, voilà, Alessandro Volta, l'Italien, qui a donné, pour savoir, bien évidemment, le Volt, hein, qui a créé la première pile à colonne. Et c'est d'ailleurs de cette conception que vient le nom pile, puisqu'en fait, c'était un empilement de disques, alors pour être précis, de cuivre et de zinc, séparés par un tissu imbibé de saumure. Et il faut savoir que, évidemment, la technologie, on l'a dit, a beaucoup évolué, mais fondamentalement, on va dire que le principe de la pile est toujours pareil, en fait, 200 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est la réaction chimique entre deux éléments, deux métaux, qui créent le courant électrique. C'est pour ça que ça ne crée pas de la lumière. Mais pour qu'une torche marche, c'est quand même plus pratique si vous avez des piles.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est l'électricité qui se transforme en lumière après.
Voilà. Et donc, il a basé ses travaux notamment sur un autre Italien qui s'appelait Luigi Galvani, qui avait observé que les muscles d'une cuisse de grenouille se contractent lorsqu'elle est mise en contact avec des métaux. Et il avait constaté que la réaction était encore plus forte quand on utilisait un instrument composé de deux métaux. Alors, il faut savoir que...
C'est
grave,
ça tient à rien. Non, mais c'est des...
Ça tient à rien. C'est dingue, hein. Et quand on se rend compte l'importance qu'a la pile dans notre société, quoi. Alors voilà, si on n'invente pas la pile,
Mais c'est dingue le nombre d'inventions qui ont été créées comme ça presque par hasard,
oui,
aussi, hein.
Alors, on a trouvé des objets archéologiques qui ressemblent à des piles, très très vieux. Par exemple, il y a la pile électrique de Bagdad qui serait datée entre moins 250 et 250, mais on n'est pas sûr à 100% que ça servait de pile. Ni même que ça servait en fait de création d'électricité. C'est-à-dire qu'on pense que s'il y avait des choses comparables avant, c'était plutôt par exemple pour le plaquage de métaux, plutôt pour cet usage-là. Donc il y a peut-être existé des piles artisanales, mais ça devait être extrêmement rare et ça ne servait pas à faire de l'électricité. Alors quelques petites informations sur les piles, hein. Alors il faut savoir par exemple que bon souvent elles sont souvent utilisées par groupe, hein, 2 3 4 6 piles et tout ça. Et souvent vous savez, ils vous disent faut changer toutes les piles en même temps, hein. Alors c'est pas que pour un argument commercial. Bien que beaucoup aussi, mais aussi.
Sinon, vont décharger celles qui sont encore chargées. C'est pas ça, c'est quelque chose comme ça, non?
Voilà. Alors, il y a aussi, ouais, puis il y a une question, en fait, de performance. C'est-à-dire que quand il y a un assemblage de piles, la performance va être celle de son élément le plus faible.
Ah bah oui, forcément, oui.
Voilà, donc forcément, si vous avez des piles qui viennent d'origines différentes, vous allez avoir de moins bonnes capacités. En moyenne, les piles sont jetées alors qu'elles possèdent encore un tiers d'énergie utilisable.
Ah, pour ça, faut utiliser Duracell, il y a un petit niveau, ouais. Voilà.
Et un dixième serait même presque neuve.
Non, mais en plus, c'est que des fois, il y a des piles qui ne fonctionnent plus dans un appareil parce que là, l'appareil est trop gourmand. On peut les retirer et les mettre dans un autre appareil et elles vont très bien marcher encore.
Exactement,
plusieurs mois,
en quoi. Effet. Voilà. Parce que les appareils électriques, souvent ceux qui consomment beaucoup, ont souvent besoin d'une tension minimale. Alors, bien évidemment, elles baissent. Et comme tu dis, c'est pour ça que parfois, en effet, tu enlèves les piles, tu les mets dans un appareil qui, en fait, est moins gourmand et la pile, en effet, va marcher. Donc si c'est ça, on vire plein de piles pour rien alors que elle pourrait facilement, comme tu dis, marcher plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et rappelons qu'usagers, il faut les amener chez le bijoutier pour que ils puissent les recycler dans la chaîne de recyclage habituelle.
Alors pas forcément chez le bijoutier, mais simplement dans un supermarché ou des choses
oui,
comme ça.
Oui, il y a souvent des boîtes. Ouais.
Voilà, il y a des boîtes. L'impression que chauffer une pile ne la régénère pas.
Non mais qui c'est qui a dit ça, c'est nouveau.
Non mais il paraît qu'il y a des gens qui pensent qu'en chauffant la pile, tu sais, elle va se recharger un peu et tout ça. Donc en effet, il faut les recycler parce que il y a des déchets dedans. Hein, elles contiennent des métaux. Une pile alcaline classique, c'est composé alors de zinc et de manganèse. Et en fait, pour des piles au lithium, vous remplacez le zinc par le lithium. Hein, donc c'est quand même des métaux plutôt lourds, même si les métaux vraiment les plus lourds dans l'ensemble sont interdits depuis plusieurs années. Alors, il faut savoir que sur une pile, on recycle 55% de la pile. Qui a quand même beaucoup à la fois, c'est-à-dire qu'il y a quand même près de la moitié forcément qui vont être perdus, et vu les composants, c'est pour ça qu'il est important de ne pas les jeter. Alors il faut savoir que en Belgique, 70% des piles étaient collectées en 2000. Enfin, plutôt pas mal. Et
on parle de la Belgique ici, c'est étonnant.
Oui, ça nous arrive. Hein. Remercie Wikipédia. Hein. Et en 2006 en France, c'était près de 9000 tonnes de piles qui ont été collectées et recyclées. Et j'ai des chiffres même de combien on vend des piles. Alors pour la France, en 2004, on a vendu 875 millions de piles. Et pour être précis, il y avait 75% d'alcaline, 22% de saline et 2% de piles rechargeables.
Qui est normal,
seulement
d'ailleurs, 2%.
Seulement c'est, 2%.
C'est étonnant.
Et en Belgique, en l'an 2000, on vendait 100 millions de piles. Et donc voilà, c'était un chiffre sur la pile, cet élément tout con, et pourtant qui... Notre société est basée sur la pile, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Et sur la prise électrique.
Encore plus. Autre, hein.
Et la pizza.
Bah, encore plus.
Encore plus. Et alors, en F1, que s'est-il passé un 17 mars? J'aurais pu parler du 17 mars 2013, mais nous allons suffisamment en parler.
C'est toi qui veux bien en parler, hein. Ça t'intéresse.
On peut remonter au 17 mars 2002. Nous étions en Malaisie, c'était le deuxième Grand Prix de la saison.
Oh, c'était tôt.
Oui. Quatrième victoire pour Ralf Schumacher, 150e pole position pour Ferrari.
Non, je te dis, non. Quoi? Tu ne peux pas faire la carrière de Ralf Schumacher.
Non, je ne fais pas la carrière de Ralf Schumacher.
Putain, j'ai peur.
Non, ça va pas, yo. On est dans une émission sérieuse ici.
Oui, on est une émission de Formule 1. Ça serait, c'est
tu parles beaucoup de piles surtout, hein.
Vous avez vu?
Ah, t'as parlé de piles parce que l'Ekers, il est représenté comme une petite pile, voilà, le rapport
c'est...
avec la F1.
Oui, bah oui. S'il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie. S'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de Kers.
Voilà. Hein. Quoi que ça change rien pour Weber.
Voilà, mais Weber, il n'a jamais de Kers.
Et donc, c'était un Grand Prix. Bon, la victoire d'un Schumacher, on s'en fout un peu ou pas?
Totalement, oui.
Ouais, on s'en fout un peu. Ça avait été marqué surtout par un accrochage entre Montoya et Schumacher, qui ont fini respectivement deuxième et troisième.
Oui, mais Schumacher lequel? Il a gagné, donc...
Bah oui, non, puis celui qui percute les autres, c'est Michael. Oh, le troll!
Non, c'est Ralf Schumacher, il se percute tout seul.
Donc, qui s'était percuté au premier virage, et à la surprise quasiment générale, devinez qui c'est qui s'était pris un drive-thru?
Schumacher.
Eh non, c'était Montoya, alors que c'était pas de sa faute. C'est-à-dire que les images quand on les voit, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que on voit Montoya à l'extérieur, Schumacher à l'intérieur. Schumacher qui est déjà bien passé, quoi, et qui fait un coup de volant qui envoie Montoya dans le gravier.
Ouais, mais il était devant.
Il était à moitié devant, puis surtout, c'est qu'il était devant, c'est qu'il a foutu quand même un bon coup de volant, et malgré tout, Montoya s'est pris un drive-thru.
Ouais, mais parce que la voiture lui a échappé les mains.
Faut quand même noter un truc, c'est que le commissaire qui était en Malaisie, c'était le même commissaire qu'à Silverstone en 98. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'est le fameux Grand Prix où Schumi, il a passé la ligne dans les stands, et il n'a rien eu. D'ailleurs, je crois qu'après le truc à Silverstone, le commissaire avait pris quand même un an de suspension.
Mais il peut pas revenir, ce commissaire. Il m'a l'air bien, ce commissaire.
Il est revenu, puisqu'en 2002, il était de retour.
Oui, mais depuis ?
Depuis, je ne sais pas.
Moi, je veux bien qu'on l'élise commissaire permanent. Ça m'intéresse.
Et donc, voilà, c'était tout pour cet éphéméride du 17 mars.
Mais bravo, Chedi, c'était un bel éphéméride.
Attends !
Bon, ben, on a commencé la saison comme les McLaren, nous.
Les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées à trouver.
Ah bah oui.
Et Dino, bah, comme la saison 2... Vous allez voir, hein, cette année, le SAV de la F1 sur les Grands Prix, on n'a pas changé grand-chose, hein. Et donc, vous le savez, après l'éphéméride, eh bien Dino, c'est l'heure de l'invité.
Seulement une heure, c'est pas beaucoup après la durée de l'éphéméride.
Alors, vous êtes nuls, hein, c'est pas de ma faute, hein.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Adeline, tu le sais, le SAV de la F1 te consacre, pas une heure, mais un petit quart d'heure de gloire.
On n'est pas sur Canal Plus à 18h.
Voilà. Et donc, tu sais par quoi ça commence, tu te rappelles ?
Bien sûr, le pour-pas-pour.
Alors je rappelle pour les nouveaux auditeurs, le pour-pas-pour, nous allons aborder 10 thèmes de l'actualité avec une question qui sera récurrente tout au long de la saison et une question un peu farfelue.
Je sais pas pourquoi la question récurrente, je sais à peu près ce que ça va être.
Non, je dis, voyons.
Et elle va revenir tout au long de l'année.
Celle-là, il y a des chances.
Oh, je l'ai inaugurée, chouette.
Et donc, il y a 10 questions. À chaque fois, Adelin va nous dire pour ou pas pour. Et à la fin, il pourra revenir sur 3 de ses choix pour les développer un peu plus. Donc, Adelin, quand tu es prêt, tu me dis « Je suis prêt » et on y va.
Je suis prêt.
Pour ou pas pour l'arrivée de Danica Patrick en Formule 1.
On peut dire « Je m'en fous
». Non, t'es obligé de choisir.
Pour.
Pour ou pas pour aller à Sepang sur un radeau fabriqué en allumettes.
Pour.
Pour ou pas pour le retour de Honda chez McLaren.
Pas pour.
Pour ou pas pour la réélection de Jean Todt à la tête de la FIA.
Pour.
Pour ou pas pour le remplacement de Luis Radia par Jules Bianchi.
Pas pour.
Pour ou pas pour la F1 sur Canal+.
Bon, je suis pas très fort concerné, mais je reviendrai dessus, je vais dire pour.
Pour ou pas pour le départ de Padillo chez Mercedes.
Oh, mais je m'en fous aussi, pour.
Pour ou pas pour les essais hivernaux extra-européens.
Pour.
Pour ou pas pour la nouvelle livrée Sauber, qui lui fait ressembler à une HRT.
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour, le concert des Guns N' Roses lors du Grand Prix de Malaisie. C'est là qu'on voit si t'as des bons goûts musicaux. T'as dit pour. Bravo. Si t'as des bons goûts musicaux.
Ils vont pas annuler, j'espère.
Non. Attends, il y a un truc intéressant pour une fois. Donc ça nous fait 2 pas pour et 8 pour. Et donc, tu es pour aller à Sepang sur un radeau fabriqué en allumettes.
Bah ouais, c'est fun, j'aime bien l'idée rigolo, moi.
Bah voilà, bah écoute, on a une bonne nouvelle, tu vas nous donner ton adresse, on va t'envoyer 3000 boîtes d'allumettes, tu nous fais un petit radeau et tu vas à Sepang. T'as jusqu'à dimanche.
Ah, ouais.
Le billet pour le Grand Prix t'attend là-bas.
Et vous me payez enfin, je veux dire, je dois aller d'ici en allumettes, enfin, radeau jusque là-bas.
On te donne la boîte d'allumettes.
Mais est-ce que c'est possible?
En faisant un petit effort, en bougeant sur le vent et compagnie, moi je dis ça marche.
Ouais.
Donc tu veux revenir sur quel sujet? Tu as le droit à 3 sujets.
Donc comme je dis, je vais revenir sur Canal+.
Écoutez le thème. Donc tu es pour.
Bah oui, parce que...
Tu vas mourir, t'es au courant, tu vas mourir après cette émission.
Oui, oui,
ils me trouveront pas, ça va, ils me trouveront pas.
On vous donnera l'adresse.
Bon, donc comme j'ai dit, je suis pas fort concerné puisqu'il y a la RTBF. Mais après, vraiment pour ce qu'ils font, ça a l'air vraiment pas mal. Tous les comment les avant et les après Grand Prix. Ça a l'air vraiment chouette. Et puis leur équipe qu'ils ont engagée, c'est des personnes assez sympathiques qui ont l'air vraiment comment on dit compétentes et tout ce genre de choses. Et après,
quand on regarde Formula One avec Jean-Luc Moncey qui nous fait une animation avec la voiture de voilà. 2008. Ah, je connais ton drapeau, j'ai dit.
C'est pas spécial celui-là en plus.
Déjà, mais je trouve que Formula One, c'est ça, puisque j'ai quand même Canal Plus par la TNT, donc j'ai pu le voir. C'est quand même autre chose que Dimanche F1. Hein. C'était la première, donc ils étaient un petit peu short, et puis ils expliquaient des détails. On s'en foutait un petit peu comme le DRS ou ce genre de choses. Mais sinon, le concept, j'aime vraiment bien. Par exemple, aussi les tops et les flops de Moncey, ça c'était sympathique. Puis ce qui est rigolo, c'est de voir comment il s'appelle Marion Lafitte en tant que plus comme personne principale, mais qui faisant partie simplement de l'émission. Oui. Ça, c'était assez rigolo. Mais sinon, comme concept, j'aime bien. Et puis, c'est vraiment autre chose que Dimanche F1. Mais sinon, les Grands Prix, j'ai vu quelques extraits et ça avait l'air franchement bien. Et puis, il couvre aussi tous les essais, ce que ne fait pas du tout la RTBF, donc ça je suis déçu parce que je ne peux pas les voir. Personnellement, si je pouvais, mais ce qui est totalement impossible puisque j'habite en Belgique et je n'ai que par la TNT Canal+, si j'habitais en France, j'aurais pris Canal+, avec les cartes prépayées.
Oui.
Mais puisque c'est pas possible par la TNT et qu'en plus ils font un compte français. Salopard.
Ah, la Belgique.
Et pour ça, donc pour Canal+, je suis pour parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font, mais je suis déçu quand même que ça part de TF1 parce que la RTBF c'est un autre niveau quoi. On est à des kilomètres TF1, c'était le paradis là. Parce que déjà, donc comme je l'ai dit, enfin c'était avec Eurosport pour les essais, donc à RTBF il y a pas les essais. Et puis c'est ce week-end, mais le commentateur, je te jure, c'est horrible. Il était tout seul, donc c'était Gaëtan Vigneron tout seul. Il se faisait des monologues tout seul. Voilà, c'était ennuyant et
je lance un appel à la RTBF. Si vous cherchez quelqu'un capable de faire des monologues, je suis là.
Par contre, ce qui sera bien dès la Malaisie, et j'espère que ce sera toute la saison, c'est qu'il y aura un autre gars, mais j'ai oublié son nom, et il y aura sur la plupart des grands prix, Jean D'Ambrosio. Donc et ça c'est cool. Donc ça c'est à voir et voilà.
T'étais pas un pilote, ça, D'Ambrosio? Ce soir, de toute façon, c'est décidé, je me fâche avec du monde. Ensuite, est-ce que tu as une deuxième actu sur laquelle tu voudrais revenir?
Alors, je reviendrai sur Bianchi à la place de...
De Luis Razia, tu n'es pas pour.
Voilà, Razia. Parce que, je veux dire, pour commencer dans la F1, Marussia, c'est pas mal. Mais le fait que il se fasse expulser un petit peu comme Timo Glock de Marussia pour de l'argent, déjà moi ça me dérange un petit peu, parce que le fait qu'il y ait des pilotes payants, ça me dérange pas, mais le fait qu'il se fasse expulser, on lui a donné des faux espoirs, ça doit être horrible pour lui déjà. Et puis ils auraient pu attendre un petit peu que les sponsors réparent leurs problèmes, enfin qui c'est pas parce qu'il ne paye pas le lendemain qu'il faut l'expulser. Et c'est pas si ça arrive une semaine plus tard, c'est pas
visiblement
grave.
D'après Luis Razia, c'est justement l'équipe Marussia qui a maintenu, qui a même été au devant des sponsors pour essayer de trouver une solution et qui n'y est pas arrivé.
Et puis aussi, donc en ce qui concerne Bianchi directement, c'est un petit peu décevant parce que le gars, j'aime bien, il est sympa, enfin il a l'air sympa, en tout cas je le connais pas, mais ça a l'air d'être un chic type. Et il était en lutte pour aller chez Force India et puis il se retrouve chez Marussia. C'est un petit peu décevant, quoi. Et puis c'est un petit peu dommage qu'il bénéficie d'un problème d'un autre pilote pour entrer dans l'écurie justement.
Et est-ce que tu aurais une troisième actu, Adela?
Alors, je reviendrai sur les essais hivernaux, le fait que ce soit hors Europe.
Et tu es pour?
Oui, je suis pour, dans le sens où pour le temps, ça c'est bien vu cette année, c'est pas possible. Il fait trop froid. Et puis ça permettrait, ça serait sympa, je trouve, par exemple, que ce soit au Qatar. Déjà, ça fait un autre circuit. comme par exemple à Jerez, où c'est un autre circuit, donc ça peut, comment, pour les développements, comment être différent avec d'avoir d'autres données. Et d'un autre côté, si c'est hors Europe, on a déjà parlé, le fait que toutes les équipes doivent se déplacer, donc c'est des coûts supplémentaires. Et puis, il faut aller à des endroits où on est sûr qu'il fasse beau et chaud, parce que ça sert à rien, je sais pas, si on va... j'imagine en Thaïlande, il fait pas forcément plus chaud, donc donc voilà, ouais, il faudrait ce genre de choses. Donc par exemple, moi je verrais bien le Qatar pour ça. Ça a l'air assez sympathique comme truc.
Non mais le Qatar, ils ont prévu d'acheter le soleil pour le mettre au-dessus des essais.
Et voilà, donc voilà. Mais donc c'est le problème, ce serait éventuellement les coûts. Mais sinon après pour tout le reste, je ne vois que des côtés positifs.
Alors ensuite, quelle serait l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Mais comme je l'ai dit dans le pour pas pour, c'est un petit peu tous les gens qui sont recrutés en fonction des écuries. Ça fait depuis trop peu de temps que je suis la F1 que pour bien connaître les gens et à quelle écurie ils appartiennent. Donc je suis toujours un peu perdu dans les noms. Donc je m'en fiche complètement.
T'as compris, Padilo? On se fiche de toi. On a rien à faire.
Toi, je serais incapable de te dire qui c'est.
Padilo qui est chez Mercedes, mais qui est encore chez McLaren et qui ne sait pas s'il ira chez Mercedes.
Bah, en même
temps...
s'il
ne sera plus chez McLaren.
Ah, mais il y a eu un article aujourd'hui sur Fan F1, non?
Oui, un magnifique article, c'est vrai.
Ah oui, il est là d'ailleurs.
Ils vont peut-être pas être mécontents qu'il se barre chez Mercedes.
Mais moi, je serais Ferrari, je sauterais sur l'occasion. Hé, hey, Pani, tu cherches pas un boulot? Alors ensuite, quelle serait l'actualité hors Grand Prix que tu aimerais lire dans les prochaines semaines?
C'est que Pirelli soit prolongé dans les années à venir, parce que je trouve qu'ils font un super boulot. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde qui les critique. J'ai déjà dit l'année passée, vous aussi vous le dites, ils font ce qu'on leur demande.
Alors est-ce qu'il y a quand même pas eu, bon, on va pas parler de la composition en elle-même, parce que ça on l'a répété, c'est aussi la, enfin, ils font ce qu'on leur demande, mais sur le choix des gommes, est-ce qu'ils ont pas fait une erreur de mettre les super tendres cette semaine?
Ce week-end, alors ça, j'allais en revenir éventuellement avec Sutil entre autres. C'est compliqué parce que à mon avis en qualif c'était pas mal du tout, mais après pour la course ça n'allait pas.
Parce que... ça se voyait, hein. De toute façon, dès qu'ils ont pu éliminer les super tendres au plus vite ou le plus tard possible, ouais.
Mais moi
ouais.
Je reprendrai les déclarations de Marc Weber en conférence de presse, je crois, où il a dit, Marc Weber qui a souffert avec ses pneus en course, et où il a dit que après tout, au moins on peut accorder à Pirelli le mérite d'avoir pris des risques, là où justement l'an dernier on leur avait reproché de ne pas prendre suffisamment de risques comme en Corée et compagnie. Là, ils ont pris un risque.
En fin de saison, aux USA, ils avaient pris les médiums et les durs, alors qu'ils avaient dit, ouais, l'année prochaine, on prend les super tendres et les tendres. En même temps, ils connaissaient pas, mais bon, ça, c'est vrai que c'était assez regrettable. Au moins, cette année, tu vois, ils sont agressifs. On peut pas leur reprocher ça.
Mais après, je pense sincèrement que s'ils avaient eu les moyens techniquement de choisir les pneus après les essais, parce que,
ouais.
Faut savoir que.
Ah oui, ils ont fait avant. Oui.
Les pneus pour Bahreïn, donc, les pneus qui sont envoyés pour la fin du mois d'avril, ils sont partis lors des essais de Barcelone. Donc c'est déjà dire que il y a beaucoup de temps. Donc ceux de l'Australie sont certainement partis fin janvier. Je pense que s'ils avaient vu les résultats des essais hivernaux, ils auraient peut-être changé de fusil d'épaule et choisi les tendres et les médiums. Et là malheureusement, ils sont obligés de faire avec
sachant quand même qu'on prédisait la catastrophe. Au final, si tu regardes ce week-end, ils ont tous fait 2-3 arrêts.
Oui.
Il y a aucun pilote qui a été ahu par une dégradation subite. Hein.
Voilà.
On n'a jamais vu des écroulements de chrono gigantesques.
Je veux dire, une course avec 3 arrêts, bon, ça commence à faire beaucoup. C'est pas non plus gigantesque.
Personnellement, je trouve que c'est mieux qu'un arrêt. Hein. C'est plus.
Bah, 2, c'est bien 2.
Ouais, même 3, c'est bien.
Ouais, 2-3, voilà.
Ouais, tu dis ça parce que Kimi l'a gagné avec 2 arrêts.
Bah oui,
hein.
Complètement.
Et donc, au contraire, quelle serait l'actualité, toujours hors Grand Prix, que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Eh ben, ce serait, je crois justement, c'est moi que j'ai dit pour, soit complètement fou, mais je crois que j'avais dit pas pour, c'est que McLaren n'est plus un moteur Mercedes pour les années à suivre.
Un moteur Zytec, ça te plaît pas? McLaren, Zytec.
J'ai jamais entendu parler de ça, donc j'ai vu l'article de tout à l'heure. J'ai jamais entendu parler de ça, donc j'en sais rien. En même temps, mais il faut pas que ça soit un pur bis. Hein.
Ah non, mais non. Oh, parce que Zytec, ça a quand même une grosse légitimité quand même.
Mais j'avais jamais entendu parler.
Bah après c'est ça dépend si tu regardes un peu l'endurance.
Ouais, en endurance plutôt, oui.
Et donc enfin pour terminer ton quart d'heure de gloire, ton heure de gloire, parce que là on est quasiment pas loin de l'heure de gloire. est-ce que tu aurais un drive through?
Bah, donc j'en ai deux, j'en aurai un sur la course et un en plus en général. Enfin sur la course et sur l'organisation du Grand Prix, c'est l'heure du Grand Prix. Pas pour nous, mais pour l'heure locale. Ça va pas de le faire à 17h heure locale. Donc à cause de ça, il fait noir trop tôt. On a vu pour les qualifs, ça a tout foiré. Je ne critique pas. Bien loin de là, j'étais tout à fait d'accord sur le fait de reporter les qualifs. Mais ça va pas de le faire à 17h heure locale. C'est beaucoup trop tard. C'est vraiment pour le public européen. Ouais, mais bon, t'as quand même plein de gens qui ne se lèvent pas à 7h du matin. Donc ça changerait rien à mon avis. Donc faut le laisser à 14h, comme ça il y a encore tout le temps. Voilà.
Ouais, puis c'est mieux à gérer dans la nuit où on se lève à 4h du mat. On est crevé, mais au moins on peut dormir après. Ouais. Alors que là tu te lèves à 7h, sincèrement, t'es pas vrai, hein. Et derrière, la course se termine à 9h. Tu peux pas te recoucher à 9h, c'est pas possible. Avant on pouvait se recoucher. On pouvait aller faire la feignasse jusqu'à 10h. Bah là non, c'est plus possible.
Par contre, il y a quelque chose que mes parents ne comprennent pas dans ce cas-là, c'est que ouais, mais pourquoi tu te lèves, tu peux enregistrer plus tard. Oh, maintenant ça va pas, c'est pas direct alors, hein.
Oui, faudra juste que je tue tout le monde autour de moi pour pas qu'il me spoil et que. Ouais, voilà, que je tue tout le monde. Tu veux vraiment que j'enregistre, maman, hein.
Donc voilà, c'est pour l'organisation du Grand Prix. Et puis je dirais en général ces dernières semaines, c'est nouveau en rapport avec Canal+, mais les gens, tous ceux qui râlent, mais ils commencent à m'énerver, là. Il n'y a plus que ça sur Fan F1. Il n'y a plus que ça. Quand on voit le nombre de commentaires sur l'article.
C'est-à-dire que, non, mais sur le coup, faut comprendre aussi. Maintenant, c'est vrai que ça fait un mois.
Ben oui, voilà. Et quand on voit le nombre de commentaires qu'il y a sur Fan F1 sur cet article.
Ça fait un mois, les gars.
Et puis, j'aime bien suivre tous les commentaires qui se disent, donc en allant sur la page spéciale du site. Et ça fait un mois que je lis plus. C'est tout le temps la même chose, des engueulades avec les gens qui se plaignent. Il y a que ça. Et quand on voit le nombre de commentaires sur l'article, il y en a au moins 600 maintenant.
Mais surtout, donc, j'ai envie de dire, moi, c'était mon drive-through. J'ai surtout envie de dire, c'est que à ces gens-là, s'ils nous écoutent par hasard, nous, on est fans de Formule 1, on a des opinions différentes sur certains trucs, on regarde peut-être pas les grands prix, on a peut-être aussi décidé de regarder les grands prix sur Canal+, on a décidé de payer, vous non, voilà, après c'est des divergences sur la manière de faire, mais à un moment donné, là, vous êtes en train de nous prendre en otage, de nous casser les couilles, je vais le dire
clairement, voilà,
exactement, vous nous cassez les couilles, alors que nous, on y est pour rien. Vous voulez vraiment agir, allez pourrir les forums de Canal+, allez écrire à Canal+, ils ont des espaces où vous pouvez leur écrire.
Bon, maintenant c'est un peu tard, fallait agir avant, il me semble.
Allez sur Twitter pourrir la page de Cyril Linet de Canal+ et compagnie, envoyez-leur des tweets, mais arrêtez de nous casser les couilles. Aujourd'hui sur Fan F1, on ne peut plus avoir une discussion, on ne peut plus rien parler. On fait un article sur un sponsor, au bout de 3 commentaires, il y a un zigoto qui sera même pour dire ah, la F1 sur Canal+, j'aime pas et compagnie, les pauvres et compagnie. Donc sincèrement, j'en ai marre.
Moi, on peut dire, je pense aujourd'hui tous ceux qui ont vu la retransmission par Canal sont satisfaits.
Même à un moment donné, faut aussi savoir avoir un peu de bon sens, un peu de respect.
Non, parce que tu sais, ça serait tellement mieux de dire que ce qu'ils font c'est de la merde. Non, ce qu'a fait Canal, c'est du super bon boulot.
Il y en a même encore qui trouvent aujourd'hui moyen de mettre des commentaires pour dire après les qualifications, Fab est obligé de réagir après un Gus là, qui était en train de dire que direct à la fin, ils font pas mieux que TF1, ils arrêtent. Bah ouais, mais ils ont attendu une heure. TF1 ils t'auraient mis 15 pubs, eux ils ont fait deux heures de couverture sans pub. Ils ont tenu, ils ont meublé, et c'était bien meublé.
Bah ouais, en plus, c'est ce qu'il y a à dire après la Q1 seulement, il n'y a pas grand chose à dire, donc pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui reprochent ceci?
Enfin, sincèrement, voilà.
Et alors, à 1h du matin, ils ont repris.
Il y a des gens qui critiquent la qualité du son et compagnie. Enfin, à un moment donné, faut juste arrêter de faire des commentaires de mauvaise foi, et puis faut arrêter, sincèrement, de nous faire chier. Pensez un petit peu, on va prendre l'exemple d'Adelin. Moi, je sais qu'Adelin est très actif dans les commentaires, qu'il a des commentaires vraiment constructifs, qu'il essaie de parler et compagnie. Il est belge, donc lui, il en a rien à foutre de Canal+. Et sincèrement, faut aussi penser que les lecteurs de Fan F1, ils ne sont pas que français. On a des Belges, on a des Suisses, on a des Canadiens aussi, qui sont pas forcément intéressés, qui aimeraient pouvoir discuter. Et le but des commentaires de Fan F1, c'est aussi pouvoir discuter de Formule 1. Sauf que de depuis un mois. Alors encore, les 15 premiers jours, effectivement, on peut comprendre qu'il y ait cette colère et compagnie.
Oui,
mais là,
sûr,
maintenant, ça fait 15 jours.
Pas.
15 jours, ça devient insupportable. D'abord pour nous, Français, qui voulons parler Formule 1 et qui, voilà, à un moment donné, faut se remettre, faut faire son deuil de TF1, faut passer à autre chose. Voilà. Et puis, il faut avoir un peu de respect aussi pour les gens qui ne sont pas du tout concernés parce qu'ils viennent pas du même pays que nous, qui sont pas concernés par ces problèmes-là et qui ont envie aussi de partager. Là, aujourd'hui, c'est impossible de tenir une discussion sur le forum et sincèrement, c'est hyper désagréable. Donc, par pitié, si vous voulez faire chier ou faire changer les trucs, c'est pas sur Fan F1 qu'il faut venir gueuler, c'est sur les pages Facebook, les Twitter et compagnie de Canal+. C'est eux qu'il faut aller faire chier, ce n'est pas nous. Et encore, en plus, si vous alliez faire chier Canal+, vous seriez complètement dans le faux parce que c'est pas Canal+ qu'il faut les faire chier, mais c'est TF1 et c'est Bernie Ecclestone qui sont à l'origine du problème. Canal+, ils ne font que profiter d'une situation, on peut pas leur reprocher. Donc arrêtez
en plus,
de nous faire
bien,
chier
hein,
dans les commentaires. En plus, ils font ça bien, quoi. Donc, à un moment donné, voilà. D'accord, c'est chiant, c'est casse-couille, on a bien compris. Bah voilà. Bah écoutez, bah voilà, vous faites avec. C'est triste, mais vous faites avec. Ça ne changera rien de déverser votre bile et compagnie en commentaire. Ça ne changera strictement rien à la situation. Mais je dirais même pire, c'est que ça commence à rendre votre combat antipathique. Moi, aujourd'hui, je vais le dire honnêtement, aujourd'hui, je ne me sens plus du tout solidaire avec les râleurs qui râlent parce que l'AF1 est sur Canal+. Je me sens plus solidaire parce que les voix que j'entends sont tellement bruyantes. On entend tellement que vous, on ne lit tellement que vous, êtes tellement présent, tellement agressif et compagnie. Enfin, aujourd'hui, j'ai jamais autant supprimé de commentaires sur FanF1 qui sont insultants et compagnie, où on se traite de cons mutuellement et compagnie. On est devenu Eurosport sur les pages foot. Enfin voilà. Donc sincèrement, ayons un peu de respect pour les lecteurs et ayons aussi un peu de respect pour les fans que nous sommes. Vous êtes tout le temps en train d'avancer cet argument que vous êtes fan de Formule 1. Respectez un peu les autres fans, même si malheureusement vous n'avez pas d'autre choix que de vous contenter d'une diffusion à minima sur des streamings ou même de pas voir le Grand Prix. Voilà. Mais si vous voulez qu'on compatisse avec vous, bah va falloir commencer déjà peut-être à nous foutre un tout petit peu la paix.
Ouais,
ça je me dis bien.
Le fait, t'as pris mon exemple les dernières semaines quand je posais des questions, j'avais en remis des réponses. Il y a tellement de commentaires qui sont apparus que ben ma question est noyée dans le flow. Et personne me répond. Enfin, j'ai pas de réponse. C'est pas que je critique les gens qui me répondent pas, bien au contraire, mais il est noyé dans le flot et donc il passe inaperçu.
Et puis en plus, ça déborde. Si au moins c'était confiné aux 2-3 articles consacrés à Canal.
Oui.
Voilà, à la limite, bon, voilà, tu vas plus sur ces articles-là, c'est bon. Mais non, c'est vrai, ça déborde sur tous les articles, c'est terrible.
Et puis les gens
qui disent qu'il y a un drive-thru.
Oui. Non, je dois quand même dire, je dois avouer, pour ton premier drive-thru, il était magnifique. Non, franchement.
Bravo.
Franchement. Ah, ça fait quand même des années qu'on fait ça, on a quand même une habitude et tout ça. Moi, je dis, c'est une belle ouverture de saison. J'en dirais deux.
Ah, oh, bah merde.
Copieur.
Non. Alors, la première, c'est concernant ce qui s'est passé la qualif et la pluie. Alors, je ne remets pas en cause le décalage à dimanche matin parce que, en effet, dans la situation où ils étaient, ils ne pouvaient plus faire grand-chose à part reporter au dimanche matin. Par contre, les faciles 30 minutes qu'on a eu au début de report pendant 10 minutes à chaque fois, on a envie de se dire, mais si vous voulez que les fins ne roulent plus du tout sur la pluie, dites-le, puis voilà, on arrêtera de s'emmerder à faire des reports et tout ça, quoi. Franchement, c'est vrai, il y avait beaucoup de pluie, même au début, mais on a déjà vu pire. Franchement, ils auraient pu rouler dès le départ. Alors, peut-être pas qu'ils auraient pu faire jusqu'à la fin, mais peut-être au moins 2 séances, voire peut-être qu'ils auraient pu tout faire dès samedi, hein. Mais voilà, faut avoir aussi un peu le courage, on a l'impression. Alors, le pire, c'est que, on a l'impression que, parce qu'on l'a vu quand même en Q1, qu'il y a eu beaucoup de sorties et tout ça. Bah oui, mais en même temps, les pilotes, ils roulent jamais sous la pluie. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Ils ne sont plus habitués
à rouler sous la pluie. Quand t'as Boulet qui répond un peu à Villeneuve en disant oui, c'est pas une loterie et tout ça, bah oui, bah en même temps, t'es censé avoir des bons pilotes, c'est censé être les meilleurs pilotes du monde sur les meilleures voitures du monde. C'est bon, quoi. Dans ces cas-là, on arrête de faire des pneus pluie, on roule plus sur la pluie, on fait comme les Américains.
Et puis par contre, enfin, juste parenthèse sur la pluie, à quoi ça sert les gens qui balayent? Franchement, est-ce que ça a une influence sur le truc? Il y a une voiture qui passe, ça enlève toute l'eau.
Si la pluie se calme, à la limite, là malheureusement, le problème c'est qu'ils ont attendu que la pluie se calme, et non seulement elle s'est pas calmée, mais en plus elle s'est intensifiée.
Ah mais c'est ça en plus le pire, c'est que tu mets des mecs sur la piste pour balayer, tu laisserais les pilotes sortir en 5
mais
minutes,
oui,
ils ont fait 10 fois le travail des balayeurs, quoi, donc.
Mais en plus c'est le foot sur l'herbe, et qui dit que l'herbe va pas rejeter sur le tarmac, justement, ça me faisait rire, moi, tellement que c'était débile.
Et alors, sinon, mon deuxième drive-thru, alors, c'est pas pour être méchant, mais bon,
C'est ouais, soit méchant, je dis.
Non, mais c'est sur le fameux Formula One, le Mac de la F1, hein. Faut quand même qu'on en parle, quoi.
T'as pas aimé.
Alors, c'est pour ça que je veux pas être complètement méchant, parce que ce n'était que la première. Canal+, en même temps, nous avait prévenu. C'est-à-dire que cette émission-là, le dimanche après-midi, elle est faite pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, et ouvertement, ils l'ont dit, c'est pour faire la promotion de la F1, sous-entendu, pour attirer les gens vers l'abonnement. Personnellement, je trouve que c'est stupide. C'est pas en faisant une émission. C'est la F1 elle-même qui peut attirer des gens à eux. C'est pas, vous pouvez faire n'importe quelle émission, même la meilleure émission de F1, c'est ce qui se passe sur les Grands Prix qui peut attirer les gens à voir la F1. Donc le problème, entre guillemets, c'est pour ça que je dis c'est pas vraiment un problème, parce que j'ai l'impression que Canal a voulu faire ça, et pour le coup j'ai l'impression que ça va continuer à être comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, ils vont faire des ajustements, peut-être pas, c'est ça le problème.
Mais non, mais de toute façon ils ont pas à faire d'ajustements, puisqu'ils ont une deuxième émission qui est consacrée à
c'est
la F1,
voilà.
le mercredi, et qui elle sera plus technique, qui sera les spécialistes F1, le mercredi à 19h je crois, et qui elle sera beaucoup plus technique.
C'est ça le truc,
voilà.
C'est que...
Là c'est vraiment, Formula One c'est vraiment une émission d'appel, voilà,
mais
avec résumé de la course,
Mais
et bon, voilà, un peu de vulgarisation, quoi.
C'est plus que ça, c'est-à-dire que Formula One n'est pas une émission pour nous.
Mais non, voilà,
elle n'est
non,
pas pour nous. Alors, je vois qu'il y en a qui ont été déçus. Bah, bon, sur le coup, hein, j'étais comme tout le monde, hein, j'ai regardé, j'ai perdu une heure de ma vie, hein, comme tout le monde.
1h20, parce qu'il faut compter quand même le grand journal.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a déjà parlé du grand journal. Voilà, elle n'est pas faite pour nous, très clairement. Et comme tu l'as dit, attendons les spécialistes F1. Alors apparemment, par contre, je ne l'ai pas vu sur la grille des programmes cette semaine.
Mais je cherchais justement pour voir de quoi vous parliez.
C'est le mercredi en fin de début de soirée, c'est 19h ou 19h30.
Non, c'est le grand journal à ce moment-là.
Sur Canal+ Sport.
Non, c'est sur Canal+. Sur Canal+ Sport.
Pardon.
Sachant que c'est inclus dans les abonnements Canal, donc faut pas.
Snowboard.
Voilà, ils annoncent les X Games. Sans doute parce que peut-être que certains sont entre Kuala Lumpur et Melbourne, mais dans ce cas-là, je me dis, est-ce que dès qu'il y aura 2 semaines, il y aura pas les spécialistes F1, quoi? Enfin, on sait pas trop.
Mais nous, on est libre à Canal+, appelez-nous!
Et là, par contre, les spécialistes F1, normalement, ça va être un truc pour nous, quoi.
C'est une émission cryptée, ça?
Mais... oui, de toute façon, oui, ce qui est sur Canal+ Sport, ouais.
Mmh. Oui. Moi, je suis un petit peu moins négatif pour Formula One, parce que j'ai trouvé ça quand même pas si mal. Bon, on dit qu'ils vont pas changer, mais je crois qu'ils vont quand même changer, parce qu'ils ont débordé d'au moins 10 minutes sur ce qui était prévu.
Oui, mais il y a le Football Club après.
Il y a des choses quand même intéressantes dans ces missions.
Ah bah oui, alors c'est vrai que t'as quand même un résumé qui dure 5-6 minutes. Alors par contre, qui s'attelle beaucoup au devant de la course. Et bon, voilà, si ça dure.
Ouais, regarde la course, j'ai dit, on s'attelle qu'au devant de la course.
Oui, voilà. De toute façon, c'était juste des morceaux de la retransmission remis dessus, hein. Voilà.
Il y avait un grand résumé du week-end aussi avant, qui était assez intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Vraiment, si vous ratez la F1 et que bon, bah, c'est un sport que vous aimiez regarder, mais que, regardez les grands prix, ça vous saoulait un peu, mais vous voulez rester intéressé, regardez Formula One, parce que là, vraiment, en 20 minutes, vous aurez vraiment tout le résumé du week-end, vous aurez des points de vue,
c'est pour ça que je dis que c'est pas pour nous, enfin, il vous explique des bases. Donc c'est vrai que pour celui qui est pas forcément super fan, savoir à quoi ça sert le DRS, tout le monde sait. Pas forcément. Nous, mais non, on s'en fout parce qu'on sait parfaitement ce que c'est le DRS. Et quand Jean-Louis Moncey il dit 50 km/h, on dit Jean-Louis Moncey, t'es pas dans une série américaine, t'es pas dans tonnerre mécanique.
Par contre, le point négatif que je dirais, c'est qu'il y a un manque de débat. Je trouve cette émission mieux que Dimanche F1, sauf sur ce truc-là, il n'y a pas grand-chose.
Ah, mais c'est ça le truc, c'est que justement, ça n'est pas une émission de débat. Parce que justement, c'est une émission d'initiation, d'ouverture à la F1.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, clairement, ceux qui regardaient la Formule 1 et qui ont regardé ça, ont été déçus par le contenu, et c'est tout à fait légitime. Et je pense que le point de vue de Canal+, c'est de dire, nous, on n'est pas là, cette émission, elle n'a pas pour but de parler aux pros de la F1 ou aux fans de longue date, mais c'est vraiment de s'adresser aux gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou aux gens qui suivent ça un peu de loin, d'essayer de les intéresser, de leur dire, venez voir, on va vous expliquer et compagnie. C'est ambitieux comme projet parce que c'est pas facile, parce que c'est une émission dédiée à la Formule 1. Il faut déjà faire venir les gens sur cette émission pour un peu les intéresser. Surtout qu'en plus, c'est face à Stade 2. Donc, déjà, on peut quand même dire que les gens qui sont plutôt fans de sport vont plutôt aller regarder
sur Stade 2,
avant d'aller sur Formula 1. Et le message aussi, c'est de dire, si vous aimez vraiment la Formule 1, abonnez-vous. Là, vous aurez les Grands Prix en intégralité et vous aurez les spécialistes F1.
Et je trouve pour le coup, en effet, comme Adelin, que à limite, bon, j'ai rien contre Thomas Alberto Rudd, mais à la limite, ils auraient mis Margot Laffitte. Ça, ça rappelle oui. pas mal. Parce que je l'ai trouvé, pour le coup, justement, un peu sous-exploité. Elle a donné 2-3 statistiques. Je m'étais dit qu'à la limite, face à Jean-Louis Moncier, qui est l'œil un peu technique, elle aurait pu justement avoir l'œil un peu plus du fan.
Enfin, l'œil technique de Jean-Luc Moncet.
Oui, mais voilà.
Non, mais moi, j'ai halluciné.
On est d'accord.
Sincèrement, aller sortir une animation de Giorgio Piola pour expliquer les évolutions de la Ferrari en te montrant, si je me trompe pas, c'est la F2008 avec les deux trous et compagnie en t'expliquant qu'il y a les deux trous sur la Ferrari.
Déjà, quand tu vois la F1 qui est sur le plateau, tu fais, oui, ah alors, oui, non, mais.
C'est pas une F1, bon, ça, c'est du polystyrène.
Là, disons que c'est, parce que c'est difficile d'avoir une Formule 1 où c'est très fair.
Oui.
Mais quand même, les animations de Giorgio Piola, quoi. Enfin, si vous voulez les voir, vous allez sur les sites de la Gazzetta dello Sport, vous allez dans la section Formule 1 et vous les avez récentes, quoi. Vous avez juste à enregistrer des commentaires dessus. Comme le mec, il est allé chercher une animation qui date de 2008 et qui n'a aucun rapport avec cette année, quoi. Parce que le trou qui est sous la voiture, sous la Ferrari, sous le museau, ne fonctionne pas comme celui de 2008. Enfin, voilà, bah, sincèrement, il m'a beaucoup déçu, Jean-Luc Moncet.
Après, il y avait des trucs qui étaient bien fait d'un point de vue présentation technique façon générale, je parle vraiment d'un point de vue télé, les reportages sont vraiment bien foutus. Bon, après voilà, faire un reportage pour Raikkonen, voilà, j'ai quand même découvert que Raikkonen était un pilote pas comme les autres. C'est waouh. Mais en effet, pour quelqu'un qui connaît pas forcément super bien la F1, ça peut être intéressant. Puis alors si j'ai tic, enfin bon, là je chipote, là pour le coup je chipote vraiment, je chipote. Hein. C'est la super animation de grille.
La grille de départ.
Qui manque
le truc décalé
Il manque un truc qui ferait que ça déchirerait de tout de malade. C'est-à-dire que quand tu vois l'animation, pour ceux qui ont peut-être pas vu, en fait c'est un truc façon grille 3D où t'as la caméra qui remonte et t'as les paires de voitures et les trucs s'affichent.
Et les noms qui sont décalés.
Ouais, les noms qui sont décalés. Et puis surtout, le problème, c'est que la grille, c'est une grille de 22 Sauber, puisque toutes les voitures sont grises.
Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que juste avant le Grand Prix, la F1, ils ont un nouveau système pour présenter la grille, inspiré de ce qui se fait aux États-Unis pour la NASCAR.
Ah, oui,
là
oui,
où
oui,
t'as
oui.
la photo des mecs qui est super jolie. Il y en avait même un deuxième qui avait été fait un peu avant dans l'émission La Grille. Voilà. Et derrière, bah tu mets ça, quoi. Mais non, mais fallait juste pomper ça du ciné international, le remettre, oui. Et c'était bon, quoi.
Voilà, je te dis, enfin, le truc qui aurait été qui aurait pas d'un point de vue contenu, c'est que dalle, mais juste toi, tu sais, le fameux wow effect, ce qui aurait été classé de faire pareil, mais qu'au moment où la caméra recule, les voitures, ils fassent une animation, qu'elles passent du gris à leur vraie couleur.
J'approchais de lui, c'est l'effet waouh.
Oui, mais tu vois,
alors,
ça ferait classe.
On s'y met tous en cœur. 1, 2, 3.
Waouh. Wow. Ça s'appelle comme ça s'appelle le waouh effect.
Mais globalement, j'ai dit, toi, sur l'ensemble de la prestation. Faisons un peu de pub à Canal.
Là, après, en effet, sur la retransmission en elle-même, ouais, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment positif. C'est-à-dire que, le dispositif, il était connu. Bon, pour l'instant, c'est vrai que Thomas Sénécal, on le voit pas trop parce qu'il est surtout, à part pour l'émission La Grille, sur les retransmissions, il est juste au début et à la fin. Mais après, c'est vrai que...
Je te coupe deux secondes, c'est quoi l'émission La Grille?
C'est l'après-grille, avant la course.
C'est fou, okay, la une.
Voilà, c'est le...
Ah oui, d'accord, ok.
C'est F1.
Mais là, ils sont vraiment sur la grille, quoi. Ou là, okay. Ils parlent vraiment F1. Voilà.
Par exemple, là, pendant les essais libres, et dès les essais libres, la fille, alors j'ai plus son nom en tête, comme c'est tout nouveau. Hein,
Delostal.
Voilà, machin. Pardon. Non, mais c'est des noms nouveaux. Non, mais elle est allée voir les gens de Météo France. Elle est allée voir les gens de Météo France qui étaient là pour qu'on sache, voilà, quel était les risques depuis sur le week-end, sur la séance en elle-même. C'est un truc qu'on n'avait pas vu, faut bien le dire. Franck Montagny était dans l'allée des stands et régulièrement il y avait un échange entre lui et les commentateurs.
Ouais.
D'ailleurs, il a été très courageux parce qu'il a passé quand même pas mal d'heures sous la flotte.
Et c'est moi ce qui m'a justement un peu rendu nostalgique, c'est que je me rappelle d'une époque où TF1 faisait ça, c'est-à-dire que TF1, ils avaient quelqu'un, d'ailleurs il y a une époque où c'était Montagny qui était là, qui était dans le garage, alors au début il avait une caméra avec lui, puis il avait plus de caméra avec le micro, et puis il a été renvoyé, donc c'est vraiment se dire que quand même à une époque TF1 faisait des efforts, vraiment avait mis en place un dispositif, et que peu à peu ce dispositif était décliné, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dommage de devoir payer pour avoir un dispositif qu'on avait il y a encore 10 ans, quasiment gratuitement, quoi. Aujourd'hui, enfin, l'année dernière, il n'y avait plus personne sur les Grands Prix. Ça fait l'impression qu'avec les trois kékés qui étaient aux commentaires, là, au moins, bah voilà, il y a un dispositif, tu le vois, t'as les interviews de tous les pilotes derrière.
Puisque après, pendant la course, faut le dire, donc, Laurie Delostal était sur la zone des interviews.
Tu veux dire machin?
Oui. Franck Montagny était au niveau du stand de Lotus F1. Donc on ne le voyait pas puisqu'ils n'ont pas le droit de montrer des images, hein, ça a été dit.
Ça serait bien par contre qu'ils changent de stand régulièrement.
Ouais, ça serait bien.
Si c'est toute la saison dans Lotus.
J'ai peur que ce soit toute la saison chez Lotus.
Avec Alain Prost au commentaire le soir, ça va vite devenir saoulant. Ouais.
Et après.
Alors par contre, il y a un truc qui m'a fait vachement bizarre.
Oui, c'est le départ.
Alors je trouve ça très 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 bonne idée. On sent que c'est quand même une idée de fans.
Oui.
Voilà, de gens qui connaissent la Formule 1 et compagnie. C'est ça de bonnes intentions. Mais j'avoue que moi ça m'a beaucoup perturbé. Ils ont décidé de. Alors je sais pas si ce sera pour ce Grand Prix ou pour les autres. Voilà. Mais ils ont décidé de ne pas commenter le départ.
Ah, c'est-à-dire qu'ils ont commenté à partir de la chicane, quoi.
Voilà. Donc c'est très bien parce que on a vraiment le bruit des. Moi pour avoir eu la chance d'aller sur un Grand Prix. C'est un moment qui
c'est
est extrêmement vibrant.
C'est aussi parce qu'on a des habitudes liées à TF1. Il y a plein de fois, sais pas si ça te l'a fait, je sais que dans les commentaires, certains l'ont évoqué. Il y a plein de fois où Julien Febro disait le classement, et dans ta tête, tu sais, réflexe conditionné, tu t'attends à ce qu'ils disent, et tout de suite après la pub. Mais non, il n'y a pas. mais tu t'y attendais. Il y a certainement, il y a plein de fois, parce que t'avais tellement l'habitude.
En même temps, sur le départ, ils sont commentés à l'étranger, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a un peu choqué de pas avoir de départ commenté. Je trouve que ça fait justement partie du charme d'avoir. Nous, on en a mis un sur le générique. Je vous cache pas que l'idée c'était aussi de prendre les départs français pour les ajouter au générique après chaque émission pour faire un générique personnalisé à chaque émission.
Bon bah là, c'est raté. Dans la merde.
Mais voilà, moi je trouve que ça faisait aussi partie du charme que d'avoir ces commentaires super. C'est un rythme très différent dans la course, le commentateur. Et surexcité et compagnie. Voilà. Et là, c'est vrai que t'as pas l'impression que c'est le départ. T'as l'impression que c'est le départ du tour de chauffe. Quitte à nous faire vivre des moments sonores, faut peut-être effectivement nous faire vivre des caméras embarquées, comme ils ont fait d'ailleurs lors des essais, en ne mettant pas de commentaires et en juste ce qui se fait en NASCAR, par exemple, ce qu'ils appellent le crank it up moment. C'est le moment où tout le monde ferme sa gueule et on entend juste les V8. Je crois que c'est des V8 en NASCAR. Bah là, c'était faire pareil. Et par contre, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, j'espère qu'ils vont faire ça à chaque fois dans Formula One, c'est la caméra embarquée qu'on n'a pas vue et qui fait plaisir
génial,
à voir.
Ça, c'est vrai.
Là, sincèrement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en voyant ça parce que c'est l'occasion de revenir sur un moment de la course en caméra embarquée, voilà, puis de souligner un truc qui est pas passé dans la réalisation internationale.
Et par contre, ce que tu as dit pour le départ, c'est vrai que ça doit faire bizarre, mais d'un côté, c'est peut-être parce que j'ai pas encore vu des milliards de départs, mais je me focalise toujours sur ce que seulement le commentateur dit. Et donc je vois pas forcément les trucs les plus intéressants parce que les commentateurs se focalisent sur un truc.
Bah en même temps, en plus cette ça. Semaine, il y avait vraiment un truc sur lequel se focaliser.
Oui. On regarde ce qu'ils disent et puis on regarde pas la fin du peloton ou plus le milieu. Et donc voilà. C'est aussi original au moins comme concept.
Donc voilà, messieurs, c'est le tour de nos drafts de Canal+. On a fait tout le tour. On va enfin parler vraiment en Formule 1.
Mais on parle de Formule 1.
Mais oui.
Et le pire, c'est que c'est un Belge qui parle.
Mais
de
oui.
Canal. Je vais regretter parce que franchement, ça me donne envie avec tout ça.
Après, il y a des beaux trucs avec Villeneuve hein, quand même. On sent qu'il est québécois.
Ah mais moi,
les puits, ça c'est classique.
Les pneus.
Le truc le plus bizarre, c'est la façon dont il a de dire McLaren.
Ah, McLaren.
Il dit McLaren.
Oui, c'est pareil.
Chez McLaren, il y a des mecs, donc c'est McLaren.
Attends, tu sais que le présentateur de la RTBF, il dit toujours Fernand.
Ah oui, bah oui.
Oh, mais attends, mais il s'appelle Fernando, non, je veux dire Fernand, pourquoi pas. Bien.
D'ailleurs, en parlant de Villeneuve, moi j'ai beaucoup aimé les commentaires de Villeneuve. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les commentaires, c'est qu'ils étaient assez techniques et pour le coup, on a un consultant qui vraiment apporte, qui apporte à la fois
et
la polémique.
Il y a la patte Villeneuve, c'est-à-dire que au détour d'une phrase, il balance un truc bien placé.
Oui. Mais en même temps, des fois, je trouve qu'il a des commentaires assez précis, assez justes. Pas mal de choses qu'il avait annoncées pendant la course se sont effectivement déroulées derrière sur les pneus et compagnie. Je pense notamment à Sutil où il avait été le premier à dire attention. Ceci va devoir passer les super temps.
Faut dire aussi
ça va être difficile
les compagnies. Les pneus Pirelli, hein.
Oui.
Parce que putain, pendant les essais libres, et pneus Pirelli, DRS, ils ont parlé que de ça pendant 3 heures.
Donc voilà, ça faisait plaisir d'avoir des commentaires un peu plus techniques. Et c'est vrai que sincèrement, l'idée de mettre un consultant.
Ah si après, il y avait un truc Julien Febrou, il n'était pas tout seul. C'est tout le temps fait. Oui, cette saison de F1 que vous allez suivre en exclusivité sur Canal+. T'es encrypté. Tous ceux qui te regardent savent très bien que t'es en exclusivité Canal+.
On est bien pour
ça. C'est bien ça tout le nœud du problème.
Non mais vous me donnez envie là, c'est malin. Enfin bref.
Messieurs, ça y est, on va parler enfin de la course.
Alléluia.
Ouais.
Et comme d'habitude, vous savez, on commence par un petit tour de cette grille de qualification.
À mettre au pluriel.
De toute façon, tu vas moins vite que Margot, hein, s'il te plaît.
Oui, non, ça va, ça devrait aller. Alors, c'est triste, parce qu'on peut plus parler de place du con, puisqu'ils ont plus que 6.
Alors, on peut parler de place des cons.
Des cons, bah ouais, voilà, c'est bien.
Oui, c'est les places des... D'ailleurs, on dit les places des cons, ou la...
Les places des cons.
Alors, vous savez quoi, on va dire les deux guignols cette année. C'est court, c'est voilà, simple, c'est bon, voilà.
Comme ça, ça change.
Les deux guignols de Q1. Oh.
C'est bien, on se renouvelle un peu.
Donc, les deux guignols de Q1 sont Esteban Gutiérrez et Pastor Maldonado. J'aurais dû le dire en espagnol, les guignols de Q1, ça aurait été plus raccord.
Guignoles.
Mais bon, après, c'était une Q1 dans des conditions difficiles. Oui, c'est Gutiérrez qui s'est pris le mur, ou c'est Hülkenberg?
C'est Gutiérrez.
Ouais, c'est bien Gutiérrez. Hein.
Donc, Hülkenberg, il s'est bien qualifié. Il a juste eu un problème d'hydraulique.
C'était vachement utile. Et donc Maldonado, on l'a Williams, bon hein, parce que bon Bottas, il est que 16e, hein. Bon, il est passé en Q2, hein. Il est passé au dimanche, mais bon, au final il a fait que 16. Perez, 15e.
Ouais, c'est sa place d'habitude.
Oui.
Non mais d'habitude il est 15e. Hein.
J'avais même pas pensé en plus.
Hein. Regardez les deux dernières années, il est 15e.
Devant les deux Toro Rosso, donc Ricciardo 14 et Jean-Éric Vergne 13.
Même devant Ricciardo, ça c'est pas mal.
Sutil 12e pour son retour. Hülkenberg qui avait quand même une grosse carte à jouer, je veux dire être 11e avec les questions de pneus et tout ça.
C'est vrai que c'était très dommage.
Voilà, c'était vraiment dommage.
Cette année, ça risque quand même d'être la deuxième pole, la 11e place.
Ouais.
Enfin, là en tout cas, ça aurait pu l'être. Hein. Le mec qui partait en pneu médium, il avait quand même.
Bah ouais, voilà. Et encore, t'imagines, parce qu'ils ont pu mettre les pneus super tendres en fin de Q3. Imagine qu'ils aient fini la Q3 avec les pneus pluie. Alors là, c'était déjà pour le 11e et 12e, c'était
Ils auraient
un
fini avec les
moins.
Pneus pluie, ils auraient eu le choix des pneus, en fait.
Ah oui, dans ces conditions-là, ils auraient eu le choix.
Ouais.
Ah.
Ouais, c'est, si la course se déroule sur ça, tu pars pas avec les pneus pluie, c'est dit.
Ah, faut amener des idées pour épicer un peu les courses, hein.
Ouais, bon, là, tes pneus, c'est pire que les super tendres, hein. Ils tiennent un demi-tour.
Des pneus pluie sur le sec, des DRS de 50 km/h, des lasers qui sortent des pontons, hein.
Romain Grosjean?
Arrête, il a dit qu'il a failli percuter quelqu'un au premier tour. Sinon, en Q3, Jenson Button, il fait un bon résultat. Au vu du
miracle.
Week-end, vu du week-end de McLaren, c'est un bon résultat.
Non, c'est un miracle.
Oui. Di Resta à la 9e place, les pilotes Lotus, Grosjean 8, Raikkonen 7, Nico Rosberg 6e place, à la 5e place. Qui c'est qui est à la 5e place?
Fernando Alonso.
Eh oui, comme l'an dernier.
Sa place de l'année
comme
passée.
L'an dernier, voilà. Felipe Massa, 4e.
Non.
Magnifique.
Non, je te dis, arrête. Arrêtons de désinformer les gens. Felipe Massa ne peut pas être 4e devant Alonso. C'est pas possible.
Si.
Non, c'est pas possible.
On peut.
Non, mais pour les qualifs, il n'y a pas de consigne d'équipe. Hein, là, voyons.
Non, mais arrêtez. C'est pas possible. Massa devant Alonso.
À la régulière.
Mais t'es méchant, toi, quand
non,
même.
Mais,
hein.
Non, mais Massa, il est... Non, mais il a vraiment fini devant Alonso.
Ouais.
Bon, on passe, Sylvie, vas-y, on passe. Hamilton.
Hamilton, 3e.
Hamilton avec sa Mercedes de merde, il est devant Alonso.
Oui.
Mais bientôt, vous allez me dire qu'il
est pas avec sa McLaren parce que tu sais que j'ai remarqué pendant le live, à un moment, t'as parlé d'Hamilton et t'as dit sur sa McLaren. Mais c'est pas grave, c'est l'habitude.
Oui.
T'es pas le seul en plus à avoir fait l'erreur. Et puis bon, oui. C'était compréhensible cette semaine.
Il y a eu mieux. Il y a eu Julien Febro qui nous a mis Kimi Raikkonen et sa McLaren qui était en tête. Bon, Kimi Raikkonen sur McLaren, ça fait déjà un bail. Puis pour que McLaren soit en tête ce week-end, fallait quand même Kimi Raikkonen au volant.
Oui. Et donc, une première ligne Red Bull, Mark Webber, 2e place, Sébastien Vettel, 1ère place. Et à ce moment-là, on se dit, bon, Ça va être comme tous les ans.
On avait des gros écarts en plus. Hein. Il y avait 4 dixièmes de, d'avance sur Vettel.
Et près de 7 dixièmes sur Hamilton.
Et une seconde sur les Ferrari, quoi. Donc,
Donc à noter, donc sur la grille, alors Charles Pic, qui était au-delà des 107%, mais bon, vu les conditions très particulières de ce Grand Prix, il a pu prendre le départ. Et donc,
cette règle ne sert à rien, en fait.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il se passe que dalle. Alors en plus, maintenant que les HRT sont plus là...
Elle va jamais servir, cette règle.
Et donc, Hülkenberg, qui, en effet, alors c'est pompe à essence, hydraulique.
Oui, il me semble.
Voilà, qui n'a pas pris départ. Alors, par contre, il n'y a pas eu de décalage, c'est-à-dire que la place 11 était libre.
Bah oui, c'est normal.
Mais ça arrive au tout dernier moment. Non, parce que ils auraient pu... Voilà,
ouais, quand c'est ça arrive comme place. Ça, c'est considéré dans la période de mise en grille, donc... Il vide l'emplacement, mais il n'est pas remplacé.
Et donc, messieurs, on va passer au premier top 10 de la saison.
Ouais.
Et comme à chaque fois, Dino, peux-tu nous annoncer les pilotes qui ne font pas partie du top 10 cette semaine?
Eh bien, chez lui, je peux déjà vous dire que Guido Vandergaard ne sera pas dans le top 10, puisqu'il est 22e avec 22 points.
Tu peux dire VDG, ça va aussi bien aussi, non?
Oui, mais il faut un VDG, ouais, ça fait vidange, ouais, c'est bon.
Non, en fait, on va surtout l'appeler l'autre chez Caterham, je pense.
Le grand, là, incroyable. 21e, Maldonado avec 43 points. 20e, Esteban Gutiérrez de chez Sauber avec 46 points. Il est juste derrière Max Chilton, 19e avec 48 points. Il y a un petit écart jusqu'à la 18e place puisque Hülkenberg a 74 points. Il est classé derrière Ricciardo qui compte pourtant même nombre de points. Mais Ricciardo a fini mieux classé que Hülkenberg. Mm-hmm. Et c'était pas dur.
Mais comment on peut donner autant de points à Hülkenberg?
Sur la qualif.
Pour
sur
la qualif peut-être. Ouais, et bon, c'est pas exceptionnel c'est non plus. Hein.
Voilà. Par son fan.
Ah, c'est celui qui était chez... Ah, c'est peut-être le fan de Locke.
Tout à fait. En 16e position, Bottas avec 89 points. Puis en 15e position, Sergio Pérez de chez McLaren avec 152 points. Voilà. Charles Pic, 14e avec 178 points. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. 13e, Paul Di Resta avec 396 points. Et là, vous dites, oh, dis donc, Dino, ça fait beaucoup de points, tout ça.
Non.
C'est rien du tout.
C'est rien.
En 13e position, nous avons Paul Di Resta avec 396 points. Donc, je l'ai déjà dit. En 12e position, nous avons Romain Grosjean avec 540 points. Et Mr. Eleven, cette semaine, n'est autre que Jenson Button avec 580 points. À noter, messieurs, que le vainqueur du week-end, et c'est un record absolu, a marqué, tenez-vous bien, 5229 points.
Ah, petit bon.
C'est beau, hein.
C'est encore battu, c'est plus de 200, de mémoire, ça doit être 210, 215 votes. Voilà. Donc, oh, merci à vous de votre participation.
Alors, notez, Adelin, tu as donné un point à Pérez.
Oui, parce que...
À un moment donné, j'ai cru que c'était Hamilton avec son casque.
C'est en fait, c'est pour l'encourager, quoi, parce que il part très loin, enfin, très loin, quand même assez loin, et puis il est pas loin des points, et puis il arrive encore à faire marcher une stratégie décalée, donc c'est pour l'encouragement plus que le résultat, et puis j'avais pas envie de mettre d'autres pilotes, donc je me dis, Pérez.
Il a pas été très aidé par son équipe, hein, qui lui a foutu les pneus super tendres en pleine qualif. Le mec vient d'arriver et compagnie, tu peux pas lui coller les pneus super tendres avant même Button et compagnie, enfin, c'est suicidaire d'envoyer un jeune pilote comme ça, en pneus tendres, alors qu'il vient d'arriver, qu'en plus, Pérez a montré qu'il était un peu chien fou par moment. Enfin voilà, c'était un sens de l'envoyer avec ses pneus temps.
Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est malgré sa McLaren un petit peu nulle part, il a réussi quand même à avoir de jolies bagarres avec d'autres pilotes.
Ah, il s'est magnifiquement fait prendre un tour et vraiment il s'est fait prendre un tour, mais il a montré que il n'aimait pas ça.
Sinon j'ai donné un point à Button, bah parce qu'il a ramené un point et que c'est un miracle. Voilà, je fais quoi? Ils ont rapporté un point, mais c'est énorme, quoi. C'est...
D'ailleurs, le nouveau pape a annoncé ce soir qu'il avait décidé de changer de nom et qu'il s'appellerait désormais le pape Jenson.
Alors, McLaren a officiellement exclu de réutiliser la voiture de l'an dernier. Parce que, chose quand même, faut s'imaginer quand même le truc, c'est que on a quand même demandé à Martin Whitmarsh, vous pensez pas peut-être utiliser la voiture de l'an dernier? Il aurait pu dire non. Non, il a dit, c'est une possibilité. Donc quand un gars comme Whitmarsh dit c'est une possibilité, il faut sous-entendre, ouais, c'est pas que le Grand Prix de Melbourne, on est vraiment dans la merde. Finalement, ils l'ont exclu.
Mais ils peuvent le faire, hein, parce que en termes de réglementation,
oui c'est ça.
La voiture marche.
Oh,
c'est pas le cas de Ferrari l'an dernier. C'est Ferrari l'an dernier, ils étaient obligés aussi de rester sur un concept parce que la voiture de 2011 était pas top et que voilà, quitte à être parti, autant finir le truc.
Alors, quoi. C'est vrai que là, apparemment, McLaren a vraiment fait le choix de faire une voiture assez différente.
Et ils ont copié Ferrari. Hein, je suis désolé, mais.
Bah, apparemment, ils l'ont mal fait.
Mais non, mais ils sont au niveau de Ferrari l'an dernier. C'est juste que voilà, c'est beaucoup de choses à apprendre. Moi, je pense qu'ils vont se redresser. J'ai bon espoir pour eux. C'est une grosse équipe.
Oui. Ça va aller.
C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux d'avoir deux pilotes titulaires qui sont là depuis pas mal de temps pour aider justement la voiture et compagnie à avoir des repères. Là, ils ont pas une bonne voiture. En plus, ils ont un jeune pilote à former, entre guillemets. Voilà, ça ajoute un peu de complexité à tout ça. Mais bon.
Sinon, Dino, tu as donné 2 points à Valtteri Bottas.
Oui.
Pourquoi?
Non, bah, j'ai été assez agréablement surpris de certains rookies. J'en avais 8 que je voulais mettre, et puis, au moment d'une 9e, je me suis dit, tiens, je vais mettre qui? J'ai fait la liste, et je me suis dit, tiens, Bottas. J'en ai pas entendu parler du week-end. Il a pas fait de bruit, il a pas fait d'erreur. Il a été là, il a devancé Maldonado en qualification. En course, il était devant lui, avant que Maldonado n'abandonne. Voilà, moi, je trouve que un bon début. Après, voilà, la voiture, clairement, visiblement larguée. Alors, attention, là, c'est pas le cas de McLaren, c'est que Williams avait changé de package aérodynamique. Et donc ils vont revenir sans doute à l'ancienne configuration, celle qui était au début des essais. Et là, par contre, la Williams risque de...
Ah non, ils vont faire comme l'année passée, ils vont reprendre les trucs de...
Voilà,
de l'Espagne.
Là vraiment, ça risque de beaucoup mieux marcher. Peut-être pas en Malaisie, mais en Chine et compagnie, ça marchera mieux parce qu'ils auront repris vraiment le package qui était celui du début aux essais à Barcelone et où ils avaient fait sensation quand même avec la voiture. Donc voilà, on peut avoir bon espoir. Mais voilà, Bottas a fait un bon week-end dans son coin, il a pas fait de bruit. Il y a des rookies qui ont fait un peu plus de bêtises, lui non. Voilà, ça méritait d'être souligné.
À la 10e place du classement, il marquera donc son premier point cette saison. Il a marqué 704 points. C'est Mark Webber. Alors moi, je lui ai donné 2 points pour compléter mon classement. Hein, voilà. Encore une fois.
Ouais.
Alors, McLaren, c'est tombé il y a quelques heures. C'est excusé parce qu'ils ont bien eu un problème de CU lors du tour de formation. Il a fallu tout réinitialiser.
Mais au moins, comme ça, on a une cause de la panne du KERS de Webber. Hein.
Oui, ça explique certaines choses.
Oui, enfin, c'est le CU, il a juste eu un problème cette semaine. Enfin,
oui, mais voilà.
Pas depuis 4, puis 8, puis tout le temps, en fait. Encore une fois, il s'est quand même bien troué... Lors de son départ, je veux dire quand c'est arrivé, c'était enfin tout le monde s'est dit encore une fois quoi.
Bah c'est Webber quoi.
Mais non, mais c'est-à-dire que en fait comme t'as pas la télémétrie et compagnie, ils ont pas pu faire tous les réglages qu'on fait généralement avant le départ. Mmh. Ils consistent notamment au réglage de l'embrayage, les différentes températures d'embrayage, tout ça parce que ils pouvaient rien régler puisqu'ils avaient pas du tout les éléments pour
rien.
Pouvoir voir exactement ce qui se passait. Donc en fait, il a
Ouais, mais il fait ça à chaque fois.
Oui, mais non, mais là sur ce coup-là, après
c'est quand même
mais
tout
là,
le temps sur lui que ça
oui,
tombe.
Oui, là, c'est tout le temps sur lui.
C'était pire.
Mais peut-être que généralement, il ferme les yeux, en fait, au moment du départ. On regarde pas l'écran, les mecs. On regarde pas l'écran. Mais là, visiblement, s'il y a le CU, c'est ce qui explique le fait qu'il ait pas pu faire sa préparation de départ. Et en plus, apparemment, le CU, parce que bon, faut expliquer que c'est un nouveau, c'est le logiciel standard qui est utilisé par toutes les équipes.
En fait, il commence à préparer 2014.
Voilà. Et comme il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2014, ils ont amené un nouveau logiciel dès 2013, qui sera normalement parfaitement au point pour 2014 et qui pourra gérer voilà. Tous les nouveaux trucs.
C'est une bêta.
Voilà. Le problème, c'est voilà.
C'est une bêta.
Et c'est notamment ce qui a causé. Alors, il y a eu des problèmes justement liés à ça sur le week-end. C'est que du coup, la FIA a pas pu contrôler le DRS ou je sais plus quoi parce que à cause justement de l'ECU, bah, eux aussi étaient dans l'aveugle.
Oui, donc, puis il y avait les drapeaux au volant. Ça ne marchait pas.
Oui, voilà.
Pas.
Donc ça, tout était détraqué. Donc voilà, en espérant quand même que ça se résolve vite parce que c'est un peu embêtant.
Oui.
Surtout pour Mark Webber.
Mais en parlant du DRS, j'ai remarqué il y a des endroits où les pilotes l'utilisaient alors qu'ils ne pouvaient pas. Je sais pas si vous avez remarqué ou alors j'ai peut-être mal vu.
Attention, il y avait 2 zones. Hein.
Oui, non, oui, bien sûr, en dehors des deux zones, donc celle de la ligne descente et la ligne droite juste après. Mais justement, donc après la 2e zone, t'as à gauche, t'as un droit puis un gauche, et puis ça tourne un petit peu bizarrement. Là. Et là, j'ai vu des pilotes l'utiliser. Je sais pas si
c'est
possible.
Ils l'ont peut-être pas utilisé, mais c'est vrai que comme le système était défaillant, parce que le système électronique qu'a la FIA peut faire en sorte que, sans même que le pilote fasse quelque chose, automatiquement, non, justement, ça le ferme. Enfin, ça le ferme pour dire, voilà, vous n'y avez plus droit, ça le ferme automatiquement. Là, pour le coup, comme il n'y avait plus le contact, entre guillemets, du système électronique, il fallait obligatoirement que les pilotes le ferment d'eux-mêmes.
Oh, mais quand ils freinent, ça se ferme pas tout seul?
Normalement, oui.
Donc c'est ça que j'ai pas trop...
peut-être en effet qu'ils ont gratté un peu, vu les circonstances, et que la FIA aussi, vu les circonstances, n'a rien dit, quoi. Ils ont peut-être un petit peu débordé, quoi.
Je serais plus, éventuellement plus attentif s'il y a de nouveau le problème, mais j'ai peut-être mal vu, mais il me semblait que dans les zones où, qui n'étaient pas autorisées, qu'ils l'utilisaient. Enfin, voilà.
Sinon, passons à la 9e place. Il a marqué 797 points. Je ne lui ai pas donné de points. Dino, tu lui as donné 1 point. Adelin, tu lui as donné 8 points. Peut-être le verra-t-on cette année. Oui, peut-être. Même si, faudrait peut-être qu'il change sa couleur de casque. Ou l'autre.
Oui,
mais bon, que l'un des deux, faut qu'il fasse un truc, quoi. Non, mais il faut que l'un des deux fasse un truc, quoi. Oui, mais c'est l'autre, la star. Hein. Donc l'autre, donc lui, il ferme sa gueule. C'est Nico Rosberg. Ah oui, c'est vrai, quoi. Ils ont le même casque, il est jaune, ils ont tous les deux la bande noire Monster Energy.
Non, mais
maintenant, un truc super cocasse, c'est quand Hamilton s'est planté. Julien Febro dit, c'est Hamilton. Ils annoncent Rosberg, donc Julien Febro dit, ah bah je me suis trompé, c'est les casques et tout ça. Tu vois qu'il sort, tu vois que c'est Hamilton. C'est magnifique.
Et pendant ce Grand Prix, j'ai pris l'habitude de regarder alors les caméras rouge, jaune, noir pour le premier pilote, pour le deuxième. Et il faut s'y habituer. Et après, pour les petites équipes, style Marussia, Caterham, je connais pas l'ordre, mais ça.
Ceux qui ont un écran de bonne qualité, le jaune de Rosberg est plus flashy.
Oui, mais bon, ouais. Mais il se trouve que la caméra, ça reste quand même encore le moyen le plus efficace. Parce qu'après, ils vont changer de casque à tout va. Donc voilà, c'est juste une question de thune. Hein, il faut prendre.
Oudino les...
Non, moi je l'ai mis parce qu'il a fait une bonne course. Il a fait globalement un bon week-end. C'est assez encourageant. On a vu beaucoup Lewis, mais il était jamais loin. En qualif, il était très costaud. J'ai hâte de voir aussi.
Souci d'électricité, malheureusement. Au 26e tour, il a fait que la moitié du Grand Prix.
Ouais. Et il a répondu en français, quoi. C'est beau, ça.
Bah, il répond pas tout le temps en français.
Mais oui, mais généralement, sur TF1, on ne l'interrogeait pas.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Là, au moins, on a pu aller voir pendant le Grand Prix et dire, hey, Nico, you have some question.
C'est bon, ils sont gâtés, les journalistes français. Je veux dire, il y a 4 français, il y a Nico Rosberg.
Il y a Alonso qui parle français.
Il y a Alonso qui parle français. Ou il y a Raikkonen qui parle pas. Donc, quelle que soit la nationalité du pays, c'est pas grave.
Et donc, moi, j'ai mis Rosberg. En fait, dans mon classement, je l'ai mis juste derrière Hamilton parce que pour moi, il méritait cette place-là. Il suivait super bien la cadence. En qualif, il était super. Et donc, c'est vraiment bête d'avoir ce problème. J'espère que ça se reproduira pas chez les Mercedes parce qu'elles ont l'air vraiment, vraiment performantes. Donc, moi, je l'ai mis derrière Hamilton parce que il tenait la cadence et il allait à cette place.
À la 8e place. Et on peut déjà vous dire quelque chose. On peut vous dire qu'en 2013, Marussia aura des points. Et c'est dès le premier Grand Prix, c'est quand même pas mal, hein.
Bah, l'avantage, c'est que comme chez Marussia et Caterham, il y a un pilote
français
à chaque fois.
Il y a de fortes chances
quand même qu'il marque des points cette année.
Au moins, on peut dire que cette année, HRT ne marquera pas de points.
Aussi.
Oui. Mais en même temps, j'allais dire, ça les change pas, mais oui, ça les change. Puisqu'ils ont marqué un point en 2012.
Deux, même!
Deux! Oh, putain!
Et donc, en effet, alors, c'est pas pour Max Chilton, hein, on n'a rien contre Max Chilton, hein, mais c'est Jules Bianchi.
Il a pas été mauvais, Chilton.
C'est Julien.
Il a pas fait d'erreur, il a été devant les deux Caterham, c'était pas mauvais. Bon, par rapport à Bianchi, c'était pas bon. Mais dans l'ensemble, c'était pas mauvais.
Non, Pique, il est devant Chilton. Hein.
Oui, non, mais pendant toute la durée de la course, après, à la fin, le résultat final.
Non, Chilton était longtemps derrière, j'ai vu qu'il avait eu...
Oui, mais on essaie libre 3 entre...
Oui, mais non, j'ai pas vu les essais, moi, alors voilà.
J'ai pas le droit à ta gueule, Shinji, pour montrer le début.
Non.
Ah, merde.
C'est méchant, ça.
Donc, Jules Bianchi, qui a marqué 822 points, je lui ai donné 4 points, Dino, tu lui as donné 10 points, et Adelin, tu lui as donné 2 points.
Ah, carrément, toi.
Ouais, j'ai adoré son week-end. Enfin, mais... j'avoue que je l'ai mis dans le même panier que Sutil, notamment parce que ils sont un petit peu arrivés dans des circonstances difficiles et encore plus difficiles pour Bianchi selon moi, que d'abord contrairement à Sutil, il a pas l'expérience de Sutil. Ensuite, il arrive dans une toute nouvelle équipe qu'il connaît pas. Il a à peine eu le temps de la visiter avant de partir en Australie. Il a fait une journée et demie d'essai avec eux. Là, il était visiblement avec un balai, un baquet provisoire parce que
oui,
il a pas
balai...
pu mouler son. Oui, non. Puis c'est moins confortable dans la Formule 1. Ça dépend comment tu le mets. Et là pour le coup, voilà, je trouve que c'est bien. Là où Sutil a quand même arrive dans un terrain inconnu, lui arrive dans un terrain complètement inconnu, il connaît personne. Alors voilà, je trouve que c'est, il a fait un week-end absolument brillant. Il n'y a pas une erreur.
Il a été le meilleur sur les compagnies. Deux petites équipes quoi. Voilà.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Il est le premier des quatre pilotes des petites équipes. C'est lui qui a le moins d'essais de tous les pilotes et voilà.
Marussia 4 points. Waouh.
Il va être beau ce classement.
C'est déjà mieux.
Mais oui,
Marussia a plus de points que McLaren au classement constructeur du SAV.
Oui, c'est pas dur.
Williams.
Allez, à la 7ème place, il a marqué 1093 points. Eh bien, c'est un autre pilote français. Bon, c'est pas Charles Pic. Ce n'est pas Romain Grosjean. C'est Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne qui a fait une très bonne course. Hein. Moi, je lui ai donné 6 points, Dino 4, Adelin 4 points.
Déjà, ça passait pas beaucoup l'année dernière. Mais là, voir Bianchi, qui a ce petit côté timide et compagnie, un peu réservé, mais qui a un putain de talent. Et voir à côté Vergne, qui est aussi très talentueux, mais qui est un poil arrogant et pas très aimable. Cette année, ça me rend insupportable, Vergne. Désolé, mais...
Et tu lui as quand même donné des points.
Oui, parce qu'il a fait un bon week-end, mais la conne sympathie n'a pas donné plus de points.
Et dire que c'est plus jeune.
Ouais.
Oui, c'est bizarre, ça.
Oui, Jean-Éric Vergne est plus jeune que Charles Pic. Waouh.
Ça... Mais il a la tête de Marc Weber.
Oui. Charles Pic a un peu changé sa coupe de cheveux.
Non, mais Vergne, il a fait une super magnifique course. Mais c'est dommage, il avait expliqué donc dans ses... Dans les bilans, qu'il avait fait des fautes au freinage. Bon, on l'a vu d'ailleurs dans Formula One. Mais pour moi, il aurait dû être
ouais,
dans les points.
Ouais, il a régulièrement été dans les points pendant la course. C'est un peu dommage.
Ouais.
En fait, même les qualifs, quoi.
Personnellement, je trouve qu'il pourrait être devant Button et Grosjean. Et j'espère qu'en Malaisie, il va être récompensé de ses efforts.
C'est dangereux d'être devant Grosjean. Il a été prudent, il s'est mis derrière.
Après, quand on regarde ses relais, enfin, surtout ses relais en médium, il a souvent fait ses relais parmi les plus tard, et on a quand même vu que c'était comme un gros avantage de les faire tôt, en règle générale. Ça a souvent été à l'avantage de ceux qui ont ravitaillé un peu avant, en fait.
Et surtout, il a mis tout le week-end Ricciardo sous les aînoirs, quoi. Donc, on n'a pas vu Ricciardo du week-end. Mmh. Alors que théoriquement, il doit être un peu plus motivé, compagnie, donc il doit être motivé. À Vergne, sous la pluie, bon, il est toujours très bon sous la pluie. On se rappelle l'an dernier, la Malaisie, où il s'arrête pas, il est en pneu intermédiaire, et voilà.
Ah ouais, il gagne la résistance.
Voilà, sous la pluie, il a vraiment un coup de volant sous la pluie qui est très intéressant. Voilà, d'ailleurs, c'était quasiment le seul à dire « Non, mais on aurait pu repartir. » Ah oui, toi tu pars, il y a 3 mètres d'eau, tu y vas. Mais globalement, même la Toro Rosso s'est bien comportée en course, alors que sincèrement, vendredi soir, on n'était pas très nombreux à parier sur les Toro Rosso quand même.
Ah oui, mais bon, avec la pluie, grippe, voilà, il y a pas de grippe aéro, mais grippe mécanique, par contre, c'est pas mal. On passe à la 6ème place.
Oh.
Et là, un bon petit step, hein, puisque 2200...
On a connu des vainqueurs avec ce nombre de points.
Oui, 2230 points quand même, hein, c'est pas rien. C'est Adrian Sutil, une des sensations quand même de ce week-end, faut le dire.
Il m'a impressionné, franchement. J'étais même très agréablement surpris, c'est pas forcément un pilote que j'aime bien. Et avec ça, il a monté un petit peu dans mon estime, franchement. C'est très bien. En plus, il surpasse, mais d'une manière gigantesque, Di Resta. Il était complètement invisible.
Ouais, mais attention, sur deux stratégies différentes. Hein. Di Resta, il est qualifié en Q3, donc il part avec les pneus du début, donc il est sur une stratégie identique aux autres. Là où Sutil, lui, n'est pas qualifié en Q3, donc peut partir avec les pneus de son soi. Il part en médium, donc ce qui fait qu'on voit beaucoup, c'est que, comme il est sur une stratégie décalée, que les médiums étaient vraiment bien meilleurs.
Oui, ça arrête beaucoup plus tard.
On l'a vu beaucoup plus loin.
Il aurait fallu qu'il tienne ses pneus médiums plus longtemps, quoi.
Il finit juste devant Di Resta, je crois, au classement. Donc,
mais justement, c'est, à mon avis, c'est le problème des super tendres pendant la course. Si c'était, par exemple, un des pneus plus durs, pour dire les tendres, peu importe, il n'aurait pas été passé par, à mon avis, il n'aurait pas été passé par Hamilton et Weber. C'est parce qu'il a les super tendres à la fin.
Ouais.
Et c'est, puisque c'est la première course, et que peut-être, Pirelli ne savait pas forcément, ils étaient un petit peu dans le flou et les super tendre à la fin, c'était pas le bon choix et ça ils n'en pouvaient rien.
Mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas de sa faute, mais c'est que automatiquement quand t'es qualifié, surtout là vu la qualité des pneus, automatiquement quand t'es qualifié au-delà de la 10e place, tu mets les médiums, tu mets les pneus les plus durs, surtout là que tu voyais très bien que les pneus allaient pas durer et compagnie, on l'a vu les premiers arrêts c'est Button au 4e tour, Weber au 5e tour. Donc c'est vraiment que les pneus duraient pas. Donc si tu veux vraiment faire la différence en début de course, tu mets les pneus les plus durs, c'est ce qu'il a fait. En plus, faut pas oublier, c'est que devant, il y avait pas Hülkenberg devant lui, donc il a vraiment eu le champ libre pour le faire. C'était lui le premier avec les pneus durs. Donc c'est plus facile de se mettre en valeur quand t'es sur une stratégie décalée avec fondamentalement dès le départ les meilleurs pneus. Et au final, on regarde sur la fin, oui, il a dominé en visuel, il a dominé en visibilité à l'écran Di Resta, mais sur le résultat de fin de course, il est juste devant Di Resta, il s'est qualifié derrière en qualification. C'est une très belle course qu'il fait pour un retour, c'est énorme. Mais globalement, je trouve que voilà, c'est difficile quand même de dire qu'il a écrasé Di Resta. Non, Di Resta, il a fait.
Oui, mais tu vois, ce qui m'a impressionné, c'est quand il était en médium, il suivait le rythme et presque facilement de Vettel aussi. C'est avec le super tendre que ça a pu gâcher.
Oui, mais ça, il était obligé de
le faire. Mais bon, il était obligé, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il arrive à garder ses médiums un peu plus longtemps pour voir.
Il aurait dû
Quand il a pris ses super tendres, qu'on voyait le nombre de tours, il restait plus facilement plus de 10 tours. Hein.
Oui, on s'est dit, oulala.
Et il va finir sur les jantes, le bonhomme.
Mais ça, qu'un.
Il a dit à un moment même qu'il croyait qu'il devait faire un autre arrêt, mais il a quand même pas fait pour finir.
Mais c'est vrai que sur les pneus, enfin, c'était quand même assez loufoque de voir que les pneus les plus durs étaient ceux finalement qui réalisaient les temps les plus rapides.
Oui.
Voilà, parce que même les pneus super temps neufs n'étaient pas aussi efficaces que les pneus durs. Ce qui était criant en qualification, c'est qu'on voyait les pilotes faire un bon premier secteur, un bon deuxième secteur, et le troisième secteur, ça se cassait la gueule de 7 ou 8 dixièmes parce que les pneus super temps étaient déjà plus efficaces, quoi. Voilà, c'est.
En plus, le truc pendant la course, c'est que ils n'ont pas un tour pour les chauffer, ils y vont à fond dedans et donc ça, ils sont pas à la bonne température. Justement, il y a la question de Greening et donc ça les fout en l'air en course puisqu'il n'a pas de tour où ils vont pour les chauffer avec leur méthode habituelle. Donc
beaucoup de Greening. Hein. On a parlé lors de l'émission, on en avait un peu parlé lors des essais libres à Barcelone. Ce week-end, on en a beaucoup parlé. Alors que c'est vrai que l'an dernier, non pas qu'ils ont été épargnés, mais on en parlait quand même beaucoup moins.
Alors apparemment, ça c'est lié au fait qu'ils ont changé la structure, et ce qui fait que le pneu en fait bouge beaucoup plus, il subit beaucoup plus de force latérale.
C'est les flancs apparemment. Le problème, c'est au niveau des flancs, voilà. Du
pneu. Voilà, c'est un peu pour expliquer, c'est un peu comme une tour qui serait bizarrement construite et qui face au vent se bougerait un peu, forcément. C'est beaucoup plus fragile, ça fragilise tout. Là, les Pirelli, c'est pareil. C'est pas le composé de la gomme qui est en cause, parce que visiblement, les composés sont plutôt bons, voire même très bons. C'est vraiment la structure qui fait que, comme le pneu bouge énormément, la gomme est extrêmement martyrisée à chaque tour, quoi.
Faudra voir après pour les prochains Grands Prix s'ils font des trucs, des composés un peu plus durs. Faudra voir.
Cinquième place, il a marqué 2307 points. On n'aurait pas dit, enfin, je pense que s'il y a 3-4 mois, on aurait dit, il a fini, on ne se serait pas attendu à ce qu'il fasse un aussi bon Grand Prix, qu'il fasse une cinquième place, c'est Lewis Hamilton.
On ne se serait même pas attendu à être déçu d'une cinquième place.
Oui,
parce que là, faut vous dire quand même, on est déçu de sa cinquième place. Lui-même, il essaie de dire le contraire, mais quand il était interviewé sur Canal+,
tu lui as donné 6 points et Adlin et moi, on lui a donné 10 points.
Quand il était interviewé sur Canal+, il tirait quand même un peu la tronche, même s'il disait, non, je suis content, mais tu sentais quand même qu'il était déçu. Et c'est vrai qu'on est un peu déçu parce que la Mercedes a été très surprenante ce week-end et que ça aurait peut-être mérité un peu plus en course.
Il a longtemps été dans le rythme des trois premiers. Hein.
Mais en fait ils se sont pourris sur la stratégie parce qu'ils ont essayé et c'est là où peut-être ils ont fait une erreur et c'est là où sincèrement moi je trouve que pendant tous les essais ils nous ont menés en bateau en disant non mais on va faire le top 10 et compagnie. Bon on le savait déjà mais des mecs sincèrement s'ils y croyaient vraiment le premier Grand Prix avec les problèmes de pneus de gestion de pneus qu'ils ont eu l'année dernière, les mecs ne tentent pas à faire une stratégie à deux arrêts alors que tout le monde part sur trois arrêts.
Oui.
Voilà, donc c'est vraiment ils partent sur une stratégie à deux arrêts, c'est qu'ils sont très confiants envers la voiture.
Avec ce moment magique où quand même l'équipe lui dit de rentrer et il ne rentre pas tout de suite. Vous avez pris Lewis Hamilton, hein.
Alors aussi, il faut dire, c'est qu'il a fait un troisième arrêt parce que visiblement, comme il a bloqué ses roues sur un dépassement d'Alonso, il a flingué donc son train de pneus.
Oh oui, le beau plat qu'il a fait.
Et, ouais, on le voyait magnifiquement.
Voilà comment on flingue une
tour. C'est vrai qu'après, c'est difficile de voir, parce que peut-être qu'avec son train de pneus, il aurait pu faire 4 ou 5 tours de plus, donc du coup, faire un arrêt beaucoup plus tard. Donc peut-être qu'en gérant les pneus, il aurait pu faire que 2 arrêts. Mais là, il est, par son erreur, et peut-être parce que Mercedes s'est peut-être un petit peu vu trop belle dans sa gestion des pneus, il a dû faire 3 arrêts, alors qu'ils étaient partis sur 2, qu'ils ont géré en début de course avec les pneus super tendres et compagnie. Donc voilà, c'est vrai que c'est une déception ce week-end, même si pour le coup, Hamilton, il n'y a rien à dire, enfin, même Rosberg, il n'y a rien à dire sur eux, quoi. Ils ont fait un très bon week-end.
Mais il y a quand même, je trouve, une différence entre la voiture de qualif, qui là est géniale.
Elle est rapide.
Super rapide. Mais après, la qualif, la course, peut-être comme tu le dis, ils avaient géré, mais au début de course, je les ai trouvés un petit peu pâteaux dans les Mercedes. Mais après, c'est vrai que puisqu'ils sont partis, ils étaient partis sur une stratégie à 2 arrêts, qu'ils économisaient, peut-être pour ça qu'ils ont parti, ils ont perdu du temps au début
de la course. Parce qu'ils tiennent 14 ou 15 tours, je crois, avec leur train de pneus super tendre. Mm-hmm. Je pense sincèrement qu'ils ont un peu géré, ils ont vu que le départ s'était pas forcément très bien passé pour eux, donc ils se sont un peu mis à l'abri en disant on va jouer vraiment, essayer de tenir plus longtemps ce relais là quoi. Mais alors, dans la presse allemande, il se murmure que Mercedes aurait réussi à développer un système de suspension entre guillemets active légale.
Oh.
Qui compenserait en fait l'avant l'arrière. Enfin, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Faudra qu'on en demande un peu plus à Gus Gus quand il reviendra dans l'émission. ils auraient trouvé un système pour compenser, et il y a une équipe qui serait en train de travailler dessus. Ce serait Sauber ou Lotus, qui sera en train de travailler sur un système équivalent. Je crois que c'est Sauber qui sera en train de travailler sur un système équivalent, parce que c'est vrai que fondamentalement, pour revenir là où ils en sont, ils ont trouvé un truc. Il y a une innovation quelque part.
Oui, il y a une différence énorme.
On se doute que c'est pas une simple évolution. Non, dernier, hein, cette voiture. Hein. C'est mais bon.
Ce qui est bien déjà, c'est qu'ils sont revenus sur une base beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Ça, oui. Quand on regarde la Mercedes, elle est très sobre, très simple, quoi. Et ils ont enfin, ils se sont enfin mis à jour sur les innovations récentes, genre échappement et effet Coanda.
Oui.
Ils avaient attendu la tournée japonaise de fin de saison pour les mettre. Bah non, c'est bon. Là, ça y est.
Donc voilà, Mercedes rapide en qualif, ça c'est clair. Pour l'instant en course, faut concrétiser.
Ouais.
Un peu comme Red Bull, et ça tombe bien parce que le quatrième, 2318 points, bah bien sûr c'est pas Mark Webber,
il se prépare déjà au chiffre 4.
Ah bah oui, c'est vrai, chiffre 4. oui, ça a mis du temps à atteindre mon cerveau. Et... c'est Sébastien Vettel. Je lui ai donné 8 points, Hadelin 6 points, Pino tu lui as donné 15 points. La Red Bull, rapide en qualif, en course c'était plus compliqué.
C'était une grosse surprise en course.
Oui.
Parce que c'est parmi le, enfin, Vettel rentre avant les autres, Massa rentre un tour plus tard, Alonso rentre un tour encore après, ça a été vraiment une grosse surprise, quoi.
Bon, bah, on passe à la troisième place, parce que visiblement, Vettel, on s'en fout, hein.
Non, mais.
Oui, j'ai vraiment rien à dire sur Vettel.
Mais c'est ça, ce qui est terrible, c'est que, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce Grand Prix, avec les pneus super tendres au début, c'est que, on peut plus, avec ces pneus-là, on peut pas avoir de course à la Vettel, dans la mesure où, je pense que c'est aussi l'erreur qu'a fait Vettel, c'est qu'il a commencé à attaquer les Grands Prix comme il fait, comme d'habitude, voilà. Quand on voit la photo, sur Fan F1, il y a les photos du premier virage et compagnie.
Ah, la première
chicane. Et on voit la première chicane, qu'il est déjà en sortie de chicane quand les autres sont encore à l'entrée. Voilà, au bout de deux tours, il a déjà 2 secondes d'avance, et
ouais,
ça
bah
fout
oui.
comme neige au soleil, parce que je pense qu'il a trop attaqué la stratégie de
Vettel. Mais c'est même étonnant, je veux dire, parce que les super tendres, dès la qualif, hein, on sentait que ça allait pas le faire, quoi.
Oui.
Donc, je sais pas, je suppose qu'en briefing, on a quand même dû lui dire, Sébastien, calme-toi, parce que mais tes pneus, ils vont pas non plus durer 10 ans.
Mais surtout
hein,
qu'en
si
plus, lui,
comme un
lui dit derrière, il parle de, je sais plus quel pilote dont il parle, mais il dit, lui, il a fait qu'un tour avec ses pneus, nous on en a fait 3. Donc déjà en qualif, ils ont fait 3 tours avec les super tendres, et en début de course, il sait très bien qu'il va falloir les faire durer le plus longtemps possible. Donc soit il a cherché à s'en débarrasser, donc à attaquer comme un malade au début pour faire la différence, il a pas pu, ou alors il est rentré beaucoup trop tard, parce qu'à un moment donné, il avait 2 secondes d'avance, c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait rentrer, voilà, faire 2 tours rapides, rentrer, mettre les pneus médiums, et puis faire la suite de la course comme ça, quoi. Et il est rentré au, je crois, 6e ou 7e tour. Mais vraiment, enfin, c'était compliqué pour lui. Je pense vraiment qu'il a trop attaqué au début, et il a voulu à la fois attaquer tout en gérant le relais pour aller le plus loin possible, sauf que ça tenait pas, quoi. Et on a vu les Ferrari lui remonter dessus comme des boulets de canon, et ça, à partir de là, ça compromet aussi la suite de la course, quoi. Si tu fais une bonne course ou un mauvais début de course, automatiquement ça a un impact sur la suite du Grand Prix, quoi. Ça, c'est avec les Pirelli, c'est rédhibitoire.
Adelin?
Non, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai en plus ce Vettel, je l'aime. J'accroche pas.
Sincèrement, Sébastien, change de coiffeur. Ah non, sincèrement.
Oui, j'adore Sébastien. Au lieu de changer de casque à tout bout de champ, hein, parce que monsieur, alors avant c'était un par course.
Oui, il y en a deux ce week-end.
Bah non, c'était deux.
Parce que c'est le casque spécial pluie.
Quand même,
comme il change tout le temps de casque.
Je sais plus qui c'est qui l'a sorti quand même sur Canal. Je me demande si c'est pas Villeneuve, parce que ça doit être son genre. Ou il y avait les deux casques. Et quelle est la différence entre les deux casques? Et donc, parce que forcément il y en avait un avec des trucs pluie et d'autres secs. Et la première réponse qui vient, c'est bah il y en a un qui est blanc et l'autre qui est bleu.
Surtout que le premier était très moche. Enfin, le blanc et noir, il était horrible. Le bleu.
Ah ouais, mais c'était hommage à Felix Baumgartner.
Oui, bah oui, bah ça reste moche.
Avec d'ailleurs la petite pique de justement, ah, ça par contre je m'en souviens, c'est de Jacques Villeneuve, parce qu'à un moment ils se disent c'est Julien Fibreau qui dit il change régulièrement de casque et tout ça, le truc pour ceux qui connaissent pas trop, et Jacques Villeneuve qui dit oui, puis comme ça en plus ça permet de faire deux fois plus de réplicas à vendre sur les stores F1, et c'est tellement vrai.
Mais c'est ça qui est bien avec Villeneuve, c'est qu'il dit ce qu'il pense, quoi. Et c'est rafraîchissant. On n'est pas tout le temps d'accord avec lui, mais au moins, c'est ça, le truc qui est bien, quoi.
On arrive de parler à Vettel alors qu'on n'avait rien à dire sur lui. On fait 10 minutes.
C'est le SAV.
C'est le SAV. Et on arrive au podium. Et à la troisième place, il a marqué 2817 points. C'est un pilote Ferrari. D'après vous, c'était lequel?
Massa.
Eh oui, c'est Massa. Massa que j'ai mis troisième, comme toi, Adelin. Dino, tu l'as mis quatrième.
Moi aussi.
Bah, j'ai doucé Belvettel devant.
Je veux dire, on a quand même vu, parce que c'est passé quand même super rapidement, mais au premier tour, au deuxième, il y a un moment, Alonso, il a essayé de doubler Massa.
Il n'y est pas arrivé.
Il n'y est pas arrivé, Massa lui a fermé la porte.
Waouh.
Ils se sont disputés une place, vous vous rendez compte, deux pilotes Ferrari qui se disputent une place.
Surtout que c'est au moment où Perez a raconté ce week-end qu'on lui avait demandé l'année dernière de prendre soin de Alonso. Rappelons qu'en année, Perez était chez Sauber. Donc on a demandé à Perez, qui était chez Sauber, de pas trop résister à Alonso, voilà, de faire attention.
Voilà.
Non, je suis content pour Massa parce que il a vraiment gardé sa dynamique de fin de saison. Et en plus, meilleur en qualif, au début de course, il se laisse pas faire.
Oui, il était meilleur qu'Alonso, il s'est pas laissé faire, c'était vraiment bien.
C'est vraiment ce qu'on attend de lui, c'est bien, je suis content.
Ce qui était bien surtout sur Massa, c'est qu'il était déçu. Il est sorti, le premier truc qu'il a dit, c'est voilà, je suis déçu, j'ai perdu deux places, quoi. Et ça, c'est le tempérament de battant et compagnie qui est bien. En même temps, sur Massa.
Parce qu'il a perdu sa place, en gros, sur le premier arrêt, non? Face à Alonso.
Oui.
Mais le pire, c'est que.
Parce qu'Alonso, c'est arrêté.
Il perd sa place un peu de sa faute, quoi. C'est-à-dire que c'est son ingénieur qui lui dit que.
Voilà,
il rentre quand il veut, c'est lui qui voit en fonction des pneus, c'est à lui de dire quand il rentre. Il rentre deux ou trois tours, je crois, après Alonso et.
Ouais, comme je disais, sur le niveau des pneus médiums, il valait mieux rentrer entre guillemets relativement tôt, en tout cas pour ceux qui étaient en trois arrêts.
Ouais. Donc là pour le coup, il a attendu vraiment tard, ça qu'il en rentrant juste après Alonso, il aurait peut-être pu sauver sa place, mais là en rentrant 2-3 tours derrière avec les autres qui avaient les pneus médiums neufs, c'était juste pas possible, quoi. Mais en même temps, Massa, moi je rappelle quand même, l'an dernier, il n'avait pas une bonne voiture, il était largué. Là, cette année, il a une bonne voiture, il marche bien. Voilà, c'est un bon pilote, ça fait plaisir de le revoir. Mais quand on fait les comparaisons avec Alonso, n'oublions pas qu'avec Alonso, quand même l'an dernier, Alonso se sortait mieux de la voiture. Bon, il y a aussi le fait qu'il était favorisé par Ferrari, justement, parce que quand on est en détresse, on s'appuie sur un pilote. Mais voilà, il s'est plus rapidement sorti de la voiture, il a plus vite compris. Alors que Massa, il a quand même fallu très longtemps avant que ça commence à fonctionner. Donc voilà, donc cette année c'est bien parce qu'il a aussi une bonne voiture pour le faire et c'est ça qui est encourageant, quoi.
Non, puis en plus, s'il fait toute une saison comme ça, c'est-à-dire que bon, voilà, Ferrari a fait 2 et 4.
Putain, il va rester en 2014.
Oui, non mais enfin, bon, peut-être.
Trop, Hülkenberg.
J'ai dit peut-être, mais surtout, bon, c'est encore trop tôt pour le dire, mais pour le titre, c'est vrai que quand tu compares les duos de pilotes...
Non.
Quoi?
Non, je dis, rassure-moi, tu parles du titre constructeur.
Oui.
Ah oui. Ça, j'ai peur.
Oui, non. Nous sommes une émission sérieuse ici, quand même, hein, Réo. On raconte beaucoup de conneries, mais il y a des limites, hein.
Soyons d'accord avec les fans de Massa. Nous ne disons pas ça parce que nous pensons que Massa est mauvais et qu'il ne pourra jamais se battre pour le titre. On dit ça, c'est qu'il ne pourra jamais se battre pour le titre.
Oui.
C'est juste qu'il a un contrat.
Oui. Mais par contre, s'il est aussi bon que ça toute la saison, eh ben, le duo Ferrari, par rapport aux autres duos qui sont peut-être un petit peu plus, il y a peut-être un petit peu plus d'écart, enfin, les duos sont différents, quoi. Ça peut être un vrai duo machine à gagner le titre constructeur, quoi.
C'est ce qui fait leur force, là, pour le moment. Hein.
Oui, parce que bon, c'est vrai que jusqu'à l'an dernier, on pouvait dire que le meilleur duo de pilote, c'était celui de McLaren, mais ce duo-là n'existe plus.
Oui.
McLaren n'existe plus.
C'est plus difficile de dire quel est le meilleur duo de pilote cette année. Dans sa globalité de pilote, bien évidemment.
Bah, sincèrement, je pense qu'en termes aujourd'hui de pilotage et d'équipe, je pense que Ferrari rivalise avec Red Bull.
Avec Red Bull, ouais.
Bon, chez Mercedes, ils ont un très bon duo, mais je pense que la voiture et compagnie, voilà, ça reste à voir. Chez Lotus, ils ont clairement une excellente voiture, ils ont des bons pilotes, mais bon...
Mais je pense que oui, au fil du temps, il y a un pilote. Mais si on passe à la deuxième place, et vous en doutez, c'est l'autre pilote Ferrari, qui a quand même marqué 3782 points, hein, comme un joli score. Fernando Alonso, bah, tout simplement, on l'a tous les trois mis deuxième. Il était déçu, mais pas complètement. C'est-à-dire que, voilà, une deuxième place, puis je pense qu'il doit sentir quand même que, voilà, la voiture tourne bien.
Et surtout, il sait qu'il y a une grosse mise à jour qui est prévue au mois de... Enfin, là, qui est prévue... Il y a une petite mise à jour qui va être prévue là en Malaisie. Et surtout, en Chine, il va y avoir des ouais. grosses nouveautés. Ça, ils l'ont annoncé qu'il y aura un nouveau pack. Donc, on peut imaginer pas mal de trucs. Et surtout, et c'est, voilà, lui, ce qu'il a retenu, c'est qu'il a fini devant les Red Bull.
Oui.
C'est pas faire injure à Raikkonen et à Lotus que de dire que la priorité pour Lando, c'est de finir devant les Red Bull. Dans la mesure où on sait que Lotus n'a pas les moyens financiers et compagnie. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'ils ont fait après leur victoire, c'est de dire... Attention, le championnat et compagnie, rien n'est fait, on n'a pas les moyens et compagnie. Voilà, c'est pour le moment, voilà, le vrai vainqueur du week-end en l'état, on peut dire que c'est lui parce que c'est lui qui va avoir la capacité durant l'année, le coéquipier, la capacité à développer et compagnie sont plutôt du côté de Ferrari que du côté de Lotus. Donc la bonne opération, lui, c'est ce qu'il a vu ce week-end, quoi. Il s'est dit, je suis devant Vettel.
À moins que Lotus ait sorti une machine de guerre.
Oui.
Parce qu'on sait jamais. Bah, je dis pas que c'est le cas. Je dis pas que c'est le cas. Mais...
Oui, mais là, sur le Grand Prix, quand même, si à chaque fois on fait un arrêt de moins, ça va aider.
Donc faire un arrêt de moins avec un seul arrêt, c'est
quand t'as Raikkonen qui dit, bon, il faut jamais un seul arrêt cette année. Quand t'as Raikkonen qui dit, oh, bon, c'était la course la plus simple que j'ai faite. Oh, putain.
Revenons sur Alonso.
Attends, je te dis, je te tends la perche pour passer à Raikkonen.
Mais non, mais parce qu'on va, parce que je veux pas qu'on parle de Raikkonen et revenir sur Alonso pour ensuite reparler sur Raikkonen.
C'est pas d'autre.
Soyez un peu logique, soyez un ça peu trouve... ordonné pour une fois.
Ça se trouve, on va oublier de parler de Raikkonen comme on a oublié de parler de Maldonado au Grand Prix d'Espagne l'an dernier.
Rassure-toi, ça ne sera pas le cas cette semaine.
Je peux te faire confiance, Didier. Ça me fait plaisir, tu vois. Je sais que je suis avec quelqu'un, je peux lui faire confiance. Enfin, en tout cas, aujourd'hui.
Oh bah si ça peut être toutes les semaines, y a pas de soucis. Hein.
Donc où est Alonso?
Ben, on n'a pas vraiment... Grand chose à dire, hein. Il fait une très très belle course, c'est le genre de course qu'il fait souvent, et puis ce qu'il fait être deuxième, c'est anticiper son arrêt, c'est très intelligent, et il a bien fait, voilà.
Il fait un super départ, moins explosif que Massa, qui a un peu la tâche facilité, parce que bon, très vite il se débarrasse de Weber, mais Alonso, voilà, c'est à un moment donné, voilà, quand Weber t'ouvre la porte, bah il t'ouvre la porte. Mais Alonso, il a essayé de s'immiscer entre la Red Bull et Hamilton, puis il a vu qu'Hamilton commençait à se rabattre, donc direct il a changé de direction, puis il est revenu, c'était bien expliqué dans Formula 1 avec la comment ils appellent ça, la palette F1 de Margot Laffitte, et puis aussi sur le dépassement, ça a été souligné par Montagny, c'est vrai, sur le dépassement avec Hamilton, il a été très prudent, il a vu l'allumage de pneus, il est resté le plus droit possible pour décroiser et tout, voilà, c'est aussi ce qui fait l'expérience d'Alonso et son savoir-faire, ce qui fait que l'année dernière il a fait une saison monumentale, c'est que parfois il est aussi capable de gérer un peu les choses, de prendre du recul, de gérer les choses intelligemment, quoi. Il se met rarement dans les ennuis, Alonso. Parfois, genre au Japon, il se met un peu dans les ennuis, mais il se met rarement dans les ennuis, quoi. Et c'est ce qui fait la différence avec Massa, quoi. Alonso, il prend les bonnes décisions au bon moment, quoi. Massa, il veut parfois faire un peu trop, et ça s'est vu avec son arrêt au stand, notamment, quoi.
On passe à la première place.
Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, Fini.
5229 points. Oh, bah, carrément.
C'est 1500 points de plus qu'Alonso.
Quand même, oui.
Je dis ça, je dis rien.
Quoique, quand même, Alonso fait un beau score, quoi. 3700, oui. Le tour Massa, il est à 2008, c'est quand même pas rien. Mais non, Raikkonen, 5229 points, on l'a tous les trois mis premier. Une
Mais en même temps, c'est tellement inattendu. Franchement, est-ce que un de vous deux aurait parié sur Raikkonen?
Alors je repose la question. Est-ce que un de vous un, donc Dino, est-ce que tu aurais parié sur Raikkonen?
Je suis dit, paraît-il sur Raikkonen. Sincèrement, oui. Oui, oui. C'est, moi, j'étais même surpris qu'il soit mal qualifié. Parce que sincèrement, on avait vu aux essais, ça avait bien fonctionné. Moi, personnellement, j'avais pas parié sur Raikkonen, j'avais plutôt parié sur Grosjean. J'étais convaincu que Grosjean, il avait une opportunité là de remporter la course, parce que je sentais les Lotus très bien, et que lui, avait été très bon l'an dernier. Bon, visiblement, Grosjean a eu un problème sur sa voiture. Il a déclaré après la course qu'il n'avait pas reconnu le comportement de la voiture, voilà, donc peut-être qu'il va changer de châssis ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y a un Gremlins là-dedans, mais clairement oui, je voyais les Lotus en forme et c'était assez étonnant de les voir aussi loin en qualification. Enfin, quatrième ligne, c'est pas non plus honteux, on sait qu'en qualification elles sont pas sensationnelles, mais en course, oui, elles peuvent toujours récupérer des trucs. Moi, c'est par contre,
c'est
dans la
moi,
course,
c'est vrai que moi ça m'a pas étonné, justement, ce que je
dans la course,
je me disais contre, je me disais dans la logique, bon, on sait que les Lotus c'est pas forcément le top, mais la différence c'est que l'an dernier quand ils faisaient 7 ou 8 en gagner 2-3 places, ce qui était bien, mais bon, on peut faire mieux. Là, voilà, bah, 7 ou 8, ça permet quand même, quand tout se passe bien, de gagner la course.
Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il est parti en ne supportant et il s'est arrêté au même moment qu'Alonso.
Même moment qu'Alonso. Oui, mais 9e le tour. Toute la différence, c'est sa gestion des pneus médiums, voilà. La longueur du relais qu'il fait en pneus médiums.
Donc c'est vrai que
qui fait que sur la course, voilà, il sucre, voilà, un arrêt en moins.
Sur la course, il fait un bon départ et puis je le vois rentrer au stand en même temps qu'Alonso. Je me dis, ah bah peut-être que finalement non. Peut-être que c'est pour Ferrari en fait. Moi j'ai cru à la victoire de Ferrari. Et du coup même sur la fin, je me disais Alonso va le remonter. Puis en fait là, comme j'ai fait le live en même temps, donc j'ai suivi la course dans les conditions où j'anime le live, donc je suis pas parfaitement concentré. Là j'ai pris le temps quand même de regarder la course aujourd'hui une deuxième fois. Et ça je me dis mais il y a pas match quoi. Il peut pas remonter Alonso, c'est pas possible.
Raikkonen a parlé de simplicité. C'est vrai qu'il y avait j'ai trouvé une sérénité dans son pilotage. Ça a pas été bon, il y a eu quand même 2-3 dépassements qu'il a fait, je pense notamment, je crois que c'était sur Vettel et sur Sutil.
Il y a la voiture pour être serein aussi.
Mais voilà, ça s'est joué à la stratégie. C'était pas étonnant d'ailleurs que Prost, parce qu'il avait donné son avis, il est apprécié parce que voilà, c'était la stratégie, la consommation des pneus. Mais ouais, une vraie sérénité. On va pas dire que c'était facile. Ouais quoi, on a senti toute son expérience et toute sa qualité justement de gestion des pneus. Alors là, je sais pas, sur le premier, enfin sur le son relais en médium, il fait plus de 20 tours quoi.
Mais je suis pas sûr que ce soit sa qualité à lui de gestion des pneus.
Bah, étonnamment,
je pense vraiment que c'est la
voiture. Oui, c'est ça, c'est pas, enfin, il est pas réputé pour ça.
Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé le Kimi Raikkonen qu'on avait plus revu depuis Ferrari le début de la saison 2008 de Ferrari où il avait été sensationnel en début de saison. Et j'ai retrouvé un peu ce Kimi Raikkonen qui, il a une bonne voiture entre les mains, bah voilà, il fait des super courses quoi. Et là, il a une bonne voiture entre les mains, une voiture en l'état aujourd'hui qui est sans doute capable de se battre pour le titre. Après, on verra sur le développement, ça risque peut-être d'être un peu plus difficile, mais en l'état, la voiture peut se battre pour le titre. Et voilà, il fait une course, ça paraît, comme tu dis, ça paraît simple. Et ce qui est beau avec Kimi Raikkonen, c'est que ça paraît simple. Mm-hmm. Voilà, et dans les moments où ça paraît simple, c'est là où il est généralement le meilleur. Quoi.
Mais ce qui est vraiment cool avec Lotus, c'est que la voiture a gardé exactement les mêmes qualités que l'année passée. Elle est même un peu meilleure en qualification. Et après, je crois qu'ils ont appris beaucoup de l'année passée et ils donnent tout sur le début de saison. Et ça paye. Franchement, j'aurais pas cru que Lotus pourrait gagner cette première course. Et donc, c'est vraiment bien que la voiture ait gardé les mêmes qualités.
Ouais, voilà, faudra voir sur le long terme. C'est justement tout ce qui anime McLaren en ce moment, c'est de dire, non, mais nous, on a fait un choix radical, mais parce qu'on vit sur le long terme, là où effectivement, Lotus et Red Bull par exemple ont été plus conservateurs dans leur choix et c'est pas étonnant de les voir performants en début d'année quoi. Ferrari un peu entre les deux parce qu'ils ont dû changer de châssis et compagnie parce que la voiture l'an dernier la base était pas bonne, mais bon, globalement non, c'est pareil chez Ferrari, il y a pas non plus de grosses nouveautés, c'est plus du raffinement, ils sont repartis sur de nouvelles bases pour faire quelque chose de beaucoup plus fin. Donc voilà, après il faudra voir sur le long terme quelle équipe aura le plus de capacité à la fois technique et financière de développer sa voiture.
Justement, c'est pour ça qu'ils donnent tout d'un coup. Ils savent qu'ils n'ont pas forcément les moyens et qu'ils ont vu que l'année passée ce que ça donnait. Après, la deuxième moitié de saison, ça, c'était plus aussi fulgurant. Donc, ils savent qu'ils doivent tout donner maintenant.
Alors, au classement, bien évidemment, au classement des pilotes, hein, c'est le même que le classement de la course. Au niveau des équipes, Ferrari est premier avec 33 points devant Lotus. Oh,
c'est bon. Attends, répète.
Ferrari est devant avec 33 points.
Ah, oh, c'est bon.
Lotus a 25 points. Red Bull 13 points, Mercedes 12, Force India 8, Toro Rosso 6 et Marussia 4. Donc oui, Marussia est devant McLaren. Ça n'arrivera pas non plus théoriquement tous les jours. Hein,
donc, attention. C'est bien parti pour le moment.
Dans l'autre classement, là je vais le donner parce que Romain Grosjean a 1 point, Jenson Button 2, Di Resta 4, Sutil 6, Weber 8, Hamilton 10, Massa 12, Vettel 15, Alonso 18, Raikkonen 25. Et au classement constructeur, Ferrari est premier avec 30 points.
Oh putain, c'est bon.
Alors ils ont dit sur le coup que c'était la première fois que Ferrari menait le championnat depuis 3-4 ans. Ça m'étonne. En Malaisie, l'an dernier, ils avaient pas... La victoire d'Alonso leur avait pas permis de passer même fugacement devant.
En constructeur, non, je crois pas, parce que ils avaient pas fait un bon Grand Prix d'Australie.
Ouais.
Mmh. Il y avait Vettel qui était toujours pas loin dans l'histoire. Donc,
Lotus, 26 points. Red Bull, 23. Force India et Mercedes, ex aequo, 10 points. Et McLaren, 2 points.
Ah, Marussia n'est pas devant, là.
Mais,
la réalité n'est pas aussi gentille avec Jules Bianchi.
Sincèrement, je pense que cette année, sur des courses avec des circonstances, Marussia peut peut-être marquer des points. Je m'engage.
Et pourquoi pas Caterham?
Caterham, j'y crois pas trop. Mais Marussia, avec Bianchi, je pense sincèrement que...
À leur niveau, ça pourrait être une surprise.
Sur un Grand Prix un peu comme la Corée l'an dernier... Non, c'est la Corée ou l'Inde. Un Grand Prix un peu loterie.
Oui, bah voilà, s'ils arrivent...
Abu Dhabi.
Dès ce dimanche, hein. Même dès ce dimanche.
Monaco.
Oui, ah bah oui, même dimanche, hein.
Maintenant qu'on a fait le top 10 et le classement, passons, messieurs, aux faits marquants. Alors, on fait dans quel ordre? Est-ce qu'on...
Oh, bah, honneur à l'invité.
Honneur à l'invité, ouais.
Ouais, c'est une bonne idée. Donc, mon fait marquant, ça va être... je veux un truc très précis, attention. Hein. Donc, les qualifs, 2 points, sous la pluie l'après-midi, virgule, ensoleillé la matinée.
Tu mets la barre haut. Tu vas voir, nous, ça va être moins poétique. Allez, je te dis, comme je te laisse l'honneur.
Ah, parce que justement, j'allais te dire, comme je suis de bonne humeur...
Ah merde, tu me prends court.
Vous voulez faire un tirage au sort?
Oh non, c'est bon.
Attention, mais où est caché McLaren? Point d'interrogation.
Ah, ça c'est pas mal, ouais.
Ça, je te laisse Raikkonen. La nation Raikkonen va se mobiliser, je sais.
Comment je vais le faire?
Oh bah, Kimi, what else?
Aucune idée.
Superbe imitation, génial.
Non, j'ai envie d'un truc du genre des patates à la première marche du podium, un truc comme ça. Mais bon, faut avoir suivi Canal pour savoir qui a mangé des patates.
Ah, Kimi, il est bien fait de la patate. Ou Kimi à la patate. D'entrée, voilà.
Ah bah oui.
Kimi à la patate.
Et oui. Donc, en fait marquant du Grand Prix d'Australie 2013, nous vous proposons...
Enfin. Faut savoir, ça fait 3/4 d'heure qu'on a enregistré cette séquence.
D'entrée de jeu, Raikkonen à la patate, ou bien les qualifs sous la pluie l'après-midi, ensoleillé la matinée, ou bien mais où est caché McLaren, ou McLaren. Un jour, je serai pas gage, je vais mettre McLaren avec un MEC.
Ah non, là, ça, c'est Dino qui va faire le drive-thru. Ah voilà.
Maintenant qu'on a passé l'analyse de la course, Dino, je te propose qu'on passe au concours.
Oh non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Tu sais quoi? Moi, j'ai plus envie qu'on passe au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Alors, j'ai dit cette semaine.
Oui.
Nous avons reçu une question au répondeur que je vais tâcher de vous faire écouter puisque c'est une question audio que nous avons reçue sur le répondeur. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Je vous propose d'écouter cette question. Nous avons reçu une question donc d'un auditeur, assez bizarre.
Bonjour, c'est Adelin. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert le petit bitonio des portes gauches d'entrée des tours de contrôle sur les Grands Prix de Formule 1? Hein? Ça m'a toujours intéressé. Merci.
Donc, bonsoir, Adelin. Nous avons confié cette question à Adelin qui va y répondre, n'est-ce pas, Adelin? Tu vas répondre à la question posée par Adelin.
Non, Adelin.
qui est en fait Fab. S'il faut vous expliquer, c'est que quand on a lancé ce système de répondeur audio, on a demandé à nos chroniqueurs de l'essayer, et donc Fab avait reçu ce jour-là une question d'Adelin à traiter, celle sur les vibreurs. Et
ouais.
Donc, voilà, il a fait une simili question d'Adelin, voilà, il a fait une simulation vraiment du répondeur.
Et donc, vous rendez compte qu'on bouleverse quand même le conducteur du SAV pour ça.
Et donc,
attends, c'est pas fini.
À cette question ô combien importante, c'est Adelin qui va répondre. Mmh. Adelin, nous te laissons la parole.
Cher Fab, je me permettrai d'abord de commencer par le fait que tes camarades du SAV sont trop paresseux que pour dire ton nom complet, à savoir Fabien. Ou Fabien, je lui demande ce qu'on sait, Fabien. C'est une honte d'être aussi paresseux. Ou alors, c'est toi qui l'as choisi juste pour te donner un style. Ouais, salut, c'est Fab. Vaut mieux que... Ouais, salut, c'est Fabien. Nous... Et ne parlons pas du pseudo que tu as choisi. Fab007. En plus, tu te prends pour un agent secret. Revenons à la réalité. Fabien est un prénom masculin qui vient du latin, et en particulier de faba fabai, qui veut dire la fève. Étonnant, non? Personnellement, je préfère être un noble qu'une fève. J'espère que cela te dit quelque chose. Mais est-ce que tu savais que tu es aussi le 20e pape? Et ça, c'est mieux que d'être noble. En outre, tu es une station de métro et une place à Paris, mais cette fois en tant que colonel. C'est cool, hein, n'est-ce pas? Et pour finir, tu es aussi une pièce de Marcel Pagnol. Ça, c'est moins cool.
Oui, parce que ce qu'on lui Marcel Pagnol, sauf que c'est pas cool.
Il est bon de savoir que ta fête est le 20 janvier, 2 jours après mon anniversaire. Donc j'aimerais que l'année prochaine, tu penses à moi 2 jours avant ta fête. Bon, fini de parler de moi, j'ai trouvé quelque chose de sympa avec des chiffres te concernant. Le prénom Fabien a été donné le plus souvent en 1984, avec 5900 naissances associées à ce prénom. 1 plus 9 plus 8 plus 4 égale 22, et 2 plus 2 égale 4. Or, ton nombre fétiche est le 28. 2 fois 8 égale 16. Tu as tout de suite remarqué que 4 fois 4 égale 16. Ce n'est-il pas mignon tout ça? Bon, c'est bien joli, mais tu m'as posé une question. Question, ma foi, assez inintéressante pour tout le monde, mais puisque personne n'a voulu s'y pencher et que je suis gentil, je vais quand même y répondre à contre-cœur. Tout d'abord, un bitonio est un petit objet qui fait partie d'un système mécanique. Ici, il s'agit d'un bouton pour ouvrir une porte. Cela évite toutes les entrées non désirées d'aliens ou encore de tout autre spectre vivant, car il pourrait venir perturber les commissaires pendant la course. À noter aussi que le bouton est mis de telle sorte que les obèses ne sachent pas appuyer dessus, sinon ils resteraient coincés au niveau des chambrants assez étroits des portes. Mais tu ne me parles que des portes gauches. Sache qu'il y en a aussi au niveau des portes droites, des portes droites. Cependant, les bitonios des portes droites ne sont pas mis sur les murs, mais sous les paillassons. Ça, c'est la révélation de l'année en exclusivité dans le SAV de la F1. En effet, seules les personnes ayant un rôle très important dans la F1, comme Bernie ou Jean-Todd, connaissent cette astuce pour entrer dans le loco top secret des tours de contrôle. Mais comment peut-on distinguer les portes gauches des portes droites? Eh bien, c'est assez simple et je finirai avec cela. Il faut regarder la tour d'un certain angle. Il faut la regarder en direction de Spa-Francorchamps. C'est-à-dire que tu as le circuit, la tour et puis toi. Il est alors aisé de différencier les portes gauches des portes droites, à moins que tu sois un dyslexique. Voilà, voilà, j'espère que tu as apprécié ce divertissement made in Adelin avec ton copyright.
Bravo Adelin.
Sinon, moi je fais des éphémérides avec des piles.
Donc voilà, c'était une petite surprise pour Fab, en espérant que ça le fasse rire. Et voilà, merci à Adelin d'avoir accepté de se prêter au jeu.
Il m'imite, je l'imite. Sauf que moi, c'est plus original.
Oula.
Oh le match. Toi, tu vas souffrir à ta prochaine question. Et donc là, maintenant, chez Jim, nous pouvons passer au concours.
Au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et Dino, le concours 2013, c'est le concours Next Generation.
Ouais.
Alors dans le fond, c'est toujours un peu le même truc, vous répondez à une question, vous nous envoyez en même temps une question avec la réponse. Mais petite subtilité, cette fois-ci, ce n'est plus moi qui choisis les questions.
Ouais, ouais, c'est moi.
Tu es prêt, Dino?
Au moins, tu critiqueras ouais, plus les choix.
Ah, tu fais quand même suite à une longue lignée de choisisseurs de questions.
Oui, qui est constituée de
moi.
Et l'aide de certains auditeurs.
À noter que oui. Donc le vainqueur remportera un t-shirt de la collection de Mark Webber Red Bull, un beau t-shirt.
Oui.
Voilà, de Mark Webber. Donc c'est un t-shirt qui ne fait pas aller vite.
Oui. Donc il fait perdre le kers.
Qui vous fait partir en retard.
Voilà. Voilà. Précisons que ce t-shirt n'a pas de kers. Donc ne cherchez pas, il n'y en a pas.
Et Dino, te souviens-tu de la question que nous avions posée aux auditeurs?
Oui, ça concernait notre nouveau générique.
Notre nouveau, il est beau. Il est bien, notre nouveau générique.
Ah, il a de la gueule. Hein.
Oui, il a de la.
Il a de la gueule.
Voilà.
Voilà.
Alors, notre nouveau générique, lors des dernières émissions que vous avez pu écouter, avait un commentaire dessus, issu des commentaires britanniques de la saison 2012. Il s'agissait de savoir de quel Grand Prix était-il tiré. Avons-nous eu des bonnes réponses, Shinji?
Ah oui.
J'ai toujours rêvé de dire ça.
Puisque en tout, nous avons eu 6 réponses.
Oula.
Ouais. Et que ces 6 réponses ont été correctes. Puisque tous... Alors, ce qui est drôle, c'est que certains ont justifié, plus ou moins, voilà. Mais bon, on ne demandait pas forcément pléthore de justifications. Mais vous avez tous pigé que c'était, en effet, le Grand Prix du Brésil.
Le
2012.
Grand
Prix. Oui, le Grand Prix. Parce qu'il y a des vaches là-bas.
T'as Pi 12 et Pi du Brésil.
Voilà, Grand Prix du Brésil.
C'est le premier pape brésilien.
C'était le Grand Prix du Brésil 2012. Faut dire que dans le générique, on n'arrête pas de dire Vettel, 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 Vettel. Ça aide.
Vettel, Vettel, Vettel.
Non, il faut dire, c'est qu'à un moment donné, on dit Massa.
Aussi.
Voilà.
Donc Dino, est-ce que tu es prêt?
Donc, alors, rappelons quand même le principe, hein, tu vas me poser
les 6 questions.
Je ne sais pas du tout qui les a envoyées ou qui que ce soit. Je vais devoir choisir selon mes propres critères le vainqueur. Et la question va servir de question pour le prochain concours.
Je précise juste une chose, c'est important. Tu ne peux pas demander l'avis à Adla.
Non.
D'accord.
Voilà.
J'ai ton sort entre mes mains, Adla.
Première question. L'écurie Brabham a développé plusieurs variantes de la voiture BT46, voiture de F1. Quel type de pièce insolite fut installée en remplacement de celle d'origine pour innover? Deuxième question. Okay. Sans compter l'épreuve de 2013, combien de pilotes différents ont gagné le Grand Prix d'Australie à Melbourne?
Ouais.
Troisième question, pour les mathos. L'année dernière, Williams cherchait des candidats forts en maths. Je vous propose de vous entraîner en ce début de saison. Cette année, sur la grille de départ, nous aurons 17 pilotes qui ont roulé sur le Grand Prix d'Australie en Formule 1. Quel nombre obtient-on si l'on ajoute tous les meilleurs résultats à l'arrivée de ces 17 pilotes, 2013 non compris?
Pas compris.
Attends,
c'est-à-dire qu'en gros, il y a 17 pilotes qui ont déjà roulé au Grand Prix d'Australie. Bon, on prend leurs meilleurs résultats au Grand Prix d'Australie, on additionne les résultats.
D'accord.
Et combien ça fait?
Ok.
Troisième question, combien y aura-t-il de zones DRS cette saison?
Ouh, ça c'est quasiment impossible à savoir parce que...
Cinquième question, en Australie, sur le circuit de Melbourne, comme on peut s'y attendre, est-ce que tous les records sont possédés par un seul homme, Michael Schumacher?
Oui.
Mais un record, à l'heure actuelle, réussit à échapper à la collection de Schumi et se retrouve dans les mains d'un pilote qui est sur la grille en 2013. Quel est ce record et quel est ce pilote?
J'aime bien ça.
Et dernière question, attention, faut que je me prépare, je prends ma fiche, c'est une question Formule 1.
Ah non, une question, j'avais à venir, c'est bon.
Un indice s'affiche sur votre lecteur MP3. Je suis né en 1964, j'ai fait mes études à la London School of Economics, je suis surtout un businessman, je pèse près de 470 millions de dollars, une de mes sociétés a récemment fait l'acquisition d'une centaine d'Airbus et une autre va relancer Alpine avec Renault. Le Grand Prix de Malaisie sera mon Grand Prix à domicile et j'ai récemment quitté la direction de mon écurie, mais on reste propriétaire, je suis, la réponse après la pub.
Ouais, pas mal ça là. Alors ça là, j'aime bien parce que ça là, il faut que tu la poses à chaque fois. Donc c'est bon, on a fait le tour là.
Voilà.
Bon, celle sur les zones DRS, je peux pas la poser parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un Grand Prix où il y a une, deux zones en plus. Enfin voilà, donc on peut pas vraiment savoir combien il y en aura. Donc c'est un peu compliqué. Les meilleurs pilotes en Australie, enfin les meilleures performances en Australie, faut quand même un bac plus 5 pour la comprendre déjà. J'hésite. Alors, on va couper un tout petit bout, c'est juste pour que j'aimerais que Shuji me donne la réponse à la... Alors, tu peux pas me donner la réponse. Oui, tu peux me la donner via Mumble, en m'envoyant un message direct via Mumble, Shuji, la réponse à la question sur Brabham.
Ok.
Je me sens seul.
Donc là, tu vois Dino. Et Adelin, tu vois rien.
La question m'intéresse beaucoup moins d'un coup. Non, je vais rester celle sur le record qui échappe à Schumacher en Australie. Ah. C'est assez compliqué, mais ça peut rester, à la portée de tous, donc voilà.
Moi, j'ai envie de dire, il y a un credo pour les chouettes Dino. Vous mettez du Schumi. Ça va peut-être pas marcher toutes les semaines, mais...
Ça ne marchera pas toutes les semaines, je vous le dis. Voilà,
donc,
c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Eh bien, non, bravo. Eh bien, bravo à Rémi.
Bravo, Rémi.
Bravo, Rémi.
Tu remportes donc.
Passe donc ce beau t-shirt. Si tu n'as pas reçu déjà un mail, parce que je vais sans doute t'envoyer de toute façon un mail sur l'adresse que tu as envoyée, n'hésite pas à me renvoyer un mail pour tes coordonnées. Mais t'inquiète pas, je vais te renvoyer un mail. Sans doute ce soir, mais quand je dis ce soir, c'est mercredi.
C'est très clair. Tout est clair dans cette émission.
Oui. Oui, enfin, en gros, Rémi, si on est samedi et que t'as toujours pas reçu de mail, t'en renvoies un, quoi.
Voilà.
Et dans le temps présent, tout est clair. Hein.
Mais oui. Donc, revenons sur les autres questions, quand même. Alors, on avait Clément, donc, qui avait posé la question sur la Brabham. Donc, alors, quel type de pièce insolite fut installée en remplacement de celle d'origine? Adelin, est-ce que tu peux avoir ne serait-ce qu'une idée? Parce que Dino, il connaît la réponse. Pour un indice, il a donné un indice, en fait, elle n'était pas seulement utilisée pour les Formule 1. C'est une pièce qui n'était pas utilisée pour les F1, qu'ils ont mis dans leur F1. Eh bien, alors,
ça réchauffe l'hiver.
Les radiateurs.
Voilà.
Parce que sur la BT-46C, les radiateurs d'origine sont remplacés par deux radiateurs qui étaient montés de série sur les Volkswagen Golf.
Ah.
Voilà, c'était pas assez insolite pour moi. J'aime bien les trucs un peu insolites. Maintenant, vous le savez. J'aime bien quand c'est un petit peu décalé.
Sinon, on avait la question d'Alan. Donc, sans compter l'épreuve de 2013, combien de pilotes différents ont gagné le Grand Prix d'Australie à Melbourne? La réponse, c'est 11. Damon Hill, David Coulthard, Hakkinen, Irvine, Michael Schumacher, Fisichella, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Button et Vettel. On avait aussi la question de Quentin. Donc, la question de Quentin, c'est la question de Matt. Donc, avec les 17...
Attends. Elle est de Matt ou elle est de Quentin?
Elle est de Quentin.
Ah, d'accord.
À propos des maths.
À propos des maths.
Ah, ok. Ah, voilà. Formulé par un Belge, c'est beaucoup plus clair.
Donc, qui a pris, donc, à chaque fois les meilleurs résultats, donc, des 17 pilotes. Quand il y avait un abandon, il comptait un 0. Pas forcément à la position, parce que parfois ils sont quand même
ouais,
classés.
Tu vois, en plus,
un zéro.
Ça derrière, voilà, faut déjà expliquer aux gens qu'il faut qu'ils mettent zéro
donc,
quand c'est abandon.
Ça fait Vettel premier en 2011, Weber quatrième en 2012, Alonso premier, Massa deuxième en 2010, Button premier, juste premier. Donc le nombre de fois comptait pas, c'était juste la meilleure position. Perez huitième, Raikkonen premier, Grosjean zéro, Rosberg troisième, Hamilton premier, Hülkenberg zéro, Di Resta 10, Sutil 9, Maldonado 13e, Vergne 11, Ricciardo 9, Pic 15, et tout ça, ça faisait 89.
Moi, j'ai trouvé les maths intéressants, mais ça, c'était avant.
On avait aussi la question d'Adelin.
Je donne beaucoup d'indices pour que vous puissiez vraiment voir vos choix, quand même.
La question d'Adelin, combien y aura-t-il de zones DRS cette saison? Alors, la réponse que tu as donnée, Adelin, c'était 23, 1 par circuit, sauf Australie, Italie, Inde et Abu Dhabi qui en auront 2. Apparemment, en Malaisie, il y en aura aussi 2.
Ah, mais pourtant, j'ai été voir sur le site Formula One, il n'y avait toujours qu'une.
Ah, mais apparemment, c'est récent, hein.
Non, mais c'est pour ça que je pouvais pas l'apprendre, c'est que vraiment, il y a des, sur des trucs comme il le déclare avant, il peut y avoir des changements et compagnie, donc c'est pas, je préférais vraiment pas prendre un truc qui pourrait induire en erreur, quoi.
Mais là,
peut-être,
il y en a toujours qu'une. Enfin, voilà.
Et donc, la dernière, vas-y, repose la dernière.
Oh, putain, vous voulez que je la repose?
j'ai hésité à te la faire faire.
Alors là, je veux des pouettes, hein, je veux que vous fassiez les buzzers. Dino, est-ce que tu prends la main?
Je laisse la main.
Je suis né en 1964, j'ai fait mes études à la London School of Economics, je suis surtout un businessman, je pèse près de 470 millions de dollars, une de mes sociétés a récemment fait l'acquisition d'une centaine d'Airbus.
Putain, mais buzz, Adelin, buzz.
Plus, et une autre va... Oui.
Tony Fernandez.
Oui. Oh oui, j'aime ce jeu.
Ah merde,
pour ça, j'aime ce jeu, c'est Tony Fernandez.
Aha.
Non, Tony Fernand, après la RTBF. Et donc, la question pour la semaine prochaine, Shinji?
Donc, rappelons-la. En Australie, sur le circuit de Melbourne, presque tous les records sont possédés par Michael Schumacher, sauf un, donc c'est les records classiques, hein, qui sont liés au Grand Prix. Quel est ce record et quel est ce pilote? Il y a un record que Schumi n'a pas à Melbourne.
Et donc pour participer, il faut envoyer
la votre réponse à concours à...
Je le guide encore cette semaine, hein, donc c'est pas
concours,
la transition.
Oui, concours@savf1.fr. N'oubliez pas, avec votre réponse, de nous renvoyer une question sur le thème que vous souhaitez. On n'est pas regardant cette année.
On fait plus en fonction des Grands Prix.
Non, on vous laisse la liberté vraiment de choisir.
C'est bien de rester un peu proche de l'actualité, mais ça sera pas un critère, sauf si on vous donne un thème. Mais là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de
on
thème
pas encore
qui surgit,
à Paris.
Donc... Et qu'allons-nous faire gagner à nos auditeurs cette semaine, Shinji? C'est la bonne question.
Oui.
Moi, comme on va aller en Malaisie, je propose quelque chose de malaisien, donc quelque chose de catéran.
Ouais, ce que je pensais aussi.
J'en profite au passage pour remercier nos généreux
donateurs
qui nous permettent de vous proposer. On est beau quand on parle comme ça en parallèle, Shinji. Moi, je trouve ça magnifique. Et donc, Shinji, nous allons jouer pour quel cadeau cette semaine?
Alors les t-shirts c'est bien, on en a fait un cette semaine, on va continuer, on fera pas tout le temps des t-shirts, hein. On essaiera quand même.
Mais c'est vrai que généralement dans les boutiques c'est souvent des t-shirts
qu'ils proposent. Comme on est en Malaisie, on va aller voir du côté de Caterham.
Ouais.
Voilà. Et
ah c'est beau Caterham.
Bonne idée.
Voilà, en ce moment il y a des jolis t-shirts Caterham. Si vous aimez le vert.
C'est vrai que le vert de Caterham il est joli, hein.
Des jolis t-shirts Caterham 57 qui existent en modèle homme mais aussi en modèle femme. Donc si vous êtes des filles,
alors mademoiselle, vous pouvez participer.
Voilà, n'hésitez pas à participer, on ajustera en conséquence.
Alors on rappelle juste pour participer, bien évidemment Rémi, comme tu as gagné, tu ne peux pas participer.
Ah bah non. T'as déjà eu un t-shirt, c'est bon. Messieurs, on va passer au prono pour la prochaine course. C'est déjà dimanche, on prévoit la pluie dimanche, donc ça va être horrible. Qui voyez-vous dimanche?
Sincèrement, ouais, Alonso.
Ouais Alonso, je vois bien aussi Alonso.
Une McLaren, non, je rigole.
Ça va être la
sur
blague
un malentendu.
Dire qu'on faisait les mêmes blagues en année sur Ferrari, ça me faisait pas rire.
Non, mais Lotus,
tu as remis le mot Trapnel à la mode quand même.
Eh bah ouais, voilà.
On arrive à la fin de cette émission, mais vous avez remarqué, il y avait un truc qu'on faisait l'an dernier. Hein, Adelin?
Oui. Et c'est le truc que c'est le truc qui change.
Bah oui, parce que bon, en même temps.
Mais pas vraiment.
En même temps, on n'avait pas posé non plus la question sur plusieurs saisons, ça avait pas de sens.
C'est le seul truc qui change, c'est que c'est plus dur à trouver, en fait.
Oh.
Oui, c'est vrai.
Alors, Dino, qu'avons-nous choisi comme question pour l'invité cette année?
Alors, l'année dernière, rappelez-vous, on demandait à nos invités de trouver 7 trucs à faire si on n'aime pas la Formule 1, tout ça pour aider les gens qui n'aiment pas la Formule 1, mais qui écouteraient un podcast sur la F1. Cette année, nous avons décidé de faire encore plus utile, mais pour de vrai, puisque nous allons demander, effectivement, et on sait très bien qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas s'abonner à Canal+. Et peut-être qu'il y a des gens qui décident vraiment de pas s'abonner, qui ont les moyens de s'abonner, mais qui tout simplement refusent de payer et qui ont 40 euros à perdre.
39,90.
Et donc peut-être qu'on peut aider ces...
On s'en fout.
On va arrondir à 40. Peut-être qu'on peut aider ces gens en leur proposant 7 trucs à faire pour 40 euros, pour un total de 40 euros. D'accord? Donc Adelin, tu vas nous présenter 7 choses à faire pour un total de 40 euros.
Donc le Grand Prix va se passer le matin, je suppose, hein. Je sais pas vraiment
quelle
heure, puisque le dimanche les boulangers sont ouverts. On peut aller acheter un croissant et un pain au chocolat pour 1,40€. Et puis, ben, on passe prendre un café. Là, c'est un peu plus cher, donc c'est 1,80€.
Putain, c'est cher le café.
Ouais. Hein. Ensuite, ben, on peut quand même ne pas s'abonner à Canal+, mais on peut s'abonner à d'autres chaînes qui sont moins chères, comme par exemple Eurosport, parce que il y a le curling ou bien des sports de combat ou le billard ou encore le rallye le dimanche matin. Et là, alors, c'est 4,90€. Non, si, on...
Ah oui,
oui, oui, n'oublie pas Adelin.
Oui.
D'où vient Adelin?
Non, non.
Ah.
Tu as trahi ta nationalité, Adelin.
Tu sais, je l'ai pas caché.
Je suis pas belge, par hasard.
Donc, 4,90€. Mais ensuite, le dimanche, bah, on sait pas forcément quoi faire. Et donc là, bah, j'ai décidé qu'on ira au zoo. Donc, on peut acheter ses billets en ligne le matin. Et là, c'est 17,50€. Ensuite.
Oula.
Pour aller au zoo, ben c'est toujours bien d'avoir des chewing-gums. Et moi je recommande les Mentos Cube. Et là c'est 4,10€, c'est cher. Hein.
C'est cher les chewing-gums.
C'est assez cher. Ouais.
Mais il y en a beaucoup donc ça va. Ensuite ben il faut faire le voyage. Donc pour c'est pas fondant. Donc on peut s'acheter des livres. Et ça ben on va dire un livre en fait. Donc pour plus ou moins 6,50€.
Et quel livre tu achèterais toi?
Oh, des Bernard Weber. Non, pas Marc Weber.
Est-ce pas Elder?
Ah oui, Elder, il avait dit ça en plus, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est plus ou moins dans ces prix-là. Mais après, si vous avez rien à foutre et que vous faites chier, que vous voulez juste dépenser votre argent, bah vous pouvez aller faire une balade en voiture et regarder le soleil qui se lève. Et mais alors, le problème avec le prix du carburant, c'est que vous pourriez faire maximum 40 km avec 3,80 €. Et le total, ça fait 40 €. Pile poil.
Attends, nous vérifions. 0,0,0,0,0,0. 4 et 2... oui, pour ça, c'est... on va te faire confiance.
Donc, hein. Vas-y, le croissant, 1,40 €.
Non, mais t'inquiète, j'ai noté, c'est juste que là, je suis fatigué, en fait. Donc, ça fait 4, 8, ça fait 12, 12, 9 et 1, ça fait 22, 27, 27, 32, 32, 40. Non.
Si.
Oui, 40. Hop, ça fait 4. Ok, 4, 4, 1, 5, 6, 6, 10, 10, 10, 27, 27, 30 et 40.
Le compte est bon.
Et voilà, vous savez quoi faire pour 40 € si vous ne voulez pas vous abonner à Canal+. Merci à
de rien. Avec plaisir.
Donc autant dire, hein, au prochain invité, voilà, faudra faire pareil. Mais avec des choses
différentes. Ah bah oui, c'est pas drôle sinon.
On n'a pas envie d'aller aux eaux toutes les semaines.
Et là maintenant, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Messieurs, merci Atelin de nous avoir accompagnés pour ce premier Grand Prix de la saison. En plus, on a tardé à avoir quelqu'un pour ce Grand Prix.
Heureusement.
Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a eu des places. Il y a des places à partir du Grand Prix du Bahreïn. Voilà, en Malaisie, en Chine, nous avons ce qu'il faut. Mais après, au Bahreïn, il y a des places, donc n'hésitez pas à postuler.
Oui, si vous avez envie. Il y a des moments, il y a des fois, on vous comprend que vous n'ayez pas envie.
Mais on a des auditeurs qui sont sadomaso aussi.
Là, je suis bienvenu pour le Grand Prix de Hongrie. Hein. Et je m'en sors bien.
Ah, mais quand même. Hein, même moi, entre Bahreïn et Hongrie, le choix est vite fait. On rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France, c'est sur Pod Radio. Coucou les gens de Pod Radio qui nous écoutent. On vous rappelle qu'il y a le groupe Facebook du SAV de la F1, qui a ouais. Twitter. Alors, il n'y a pas de compte Twitter du SAV de la F1, mais il y a nos comptes Twitter avec le mot dièse, le hashtag SAVF1. N'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sûr.
Panefa.com,
bien sûr.
Ah, je t'ai eu.
Et ah, ça n'est pas un concours de rapidité, hein. Parce que le SAV de la F1, c'est...
Le rythme des podcasts, j'arrive à le dire.
Vous savez, quand vous n'arrivez pas à dire le rythme des podcasts, vous dites, c'est la famille.
Dites la famille.
C'est plus non, simple, c'est plus court.
Il est tard, hein.
Ou vous dites, c'est gratuit.
Hein, ah oui, oui, oui.
À la
oui.
Nouvelle punchline 2013.
Ça, c'est bien.
J'y tiens à cette nouvelle punchline. Allez, on vous souhaite un bon week-end, un bon Grand Prix, hein.
Sous la pluie.
Sous la pluie, quelle que soit la façon d'où vous allez voir le Grand Prix. Et, tiens, Dino. As-tu pensé à faire quelque
oui.
chose? Va-t-on avoir quelque chose de nouveau? Va-t-on peut-être avoir quelque chose que l'on va comprendre?
Non, j'avais oublié. Et je me suis rappelé pendant l'émission et je me suis dit, ah, il faut quand même que je continue ça, c'est tellement beau. Et surtout, c'est que des fois, vous allez chercher un proverbe, une inspiration, et vous tombez sur le proverbe que même vous n'auriez pas osé le sortir un jour.
Mm-hmm.
Et ce proverbe, naturellement, puisqu'on est en Australie, est le suivant. Qui lance un boomerang prend le risque de se le prendre dans la tête.